Icon, icône comme vous. Et eh oui, vous êtes tous des icônes, c'est magnifique. Oh, quelle démagogie de Samuel Etienne de bon matin. Vous allez bien, les amis? Hop, sans niaiser, sans tarder, on lance, maintenant que vous avez le droit à la musique sur Twitch, le petit live TikTok. Deux commus, double chat, deux fois plus de rigolade. C'est parti, démarrez le live. Ok, super. Let's go, le chat est là, double chat, c'est incroyable. Voilà. Ding, 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 ding. Vous allez bien? Sommaire direct, pop, 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 pop. D'abord, on va lire quelques messages, notamment un message très sympathique qui nous parlait d'Égypte tout à l'heure. Attendez, je le retrouve. Salut, Rayeté qui nous écrivait. Rayeté qui nous écrivait dans le chat il y a quelques secondes. Le live vient de débuter. Salut Samuel, je t'avais vu en Égypte. Je t'avais vu en Égypte dans un bateau. Samuel et Étienne sont dans un bateau. Samuel tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Il y a longtemps, est-ce que tu t'en rappelles? Alors, j'ai répondu à cette personne dans le chat. Je ne suis jamais allé en Égypte de ma vie. À une époque, j'ai un peu voyagé, mais jamais en Égypte. Et donc, si ce Samuel Étienne que tu as croisé dans un bateau en Égypte un jour t'a demandé de l'argent, hein, ou tu lui as prêté de l'argent, eh ben, tu t'es fait scammer, quoi. Désolé. C'était peut-être Nagui, ouais. Ah oui, c'était peut-être Nagui. Ou Brad Pitt, puisque... puisque Nicopala, j'ai vérifié en plus, le t-shirt. Ou Brad Pitt, parce que souvent, on nous confond. Merci Draft pour le 11e mois. Merci Eternity. Eternity, pardon, pour le 7e mois. Merci Shao Online, 35 pour le soutien. Merci Broubrou06. Et ben bon replay du coup. Merci Pacoun pour le 41e mois. C'est incroyable. Vous allez bien? Salut Jérôme Collat. Merci beaucoup. Samuel, tu as pris goût, je crois, au live TikTok. Je me trompe. Alors. Non. Je suis hyper décevant pour la communauté TikTok. Non. Ah non, pas du tout. Non, non, c'est juste que moi, j'aime le live et le direct depuis toujours. C'est-à-dire que moi, je suis un journaliste qui fait que du live. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ce métier il y a 30 ans, il y a 30 ans, en fait, très, très vite, j'ai découvert la radio. Donc pour faire du journal à la radio, quoi. Et puis après, la télé pour faire du JT, pour faire des émissions de politique, d'histoire, choses comme ça. Jusqu'au moment où on m'a proposé Question pour un champion. Et Question pour un champion est un peu une exception dans tout ça, parce qu'en fait, à part Question pour un champion, moi, ce que j'aime, c'est le direct. Parce que le direct, il y a un truc un peu casse-gueule. Let's go, t'y vas, tu vois. On voit ce qui se passe. Tu vois, j'aime bien ce côté sans parachute, quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai retrouvé sur Twitch. Le plaisir du live, avec le chat en plus. Et ce que je retrouve sur TikTok. Donc en fait, c'est pas le live sur TikTok que j'aime, c'est le live. Ha ! Depuis toujours, en fait. Et Twitch est à la fois une immense nouveauté, enfin le live sur internet pour faire simple, parce que maintenant c'est vrai qu'il y a TikTok, et puis ça marche bien d'ailleurs, merci d'être aussi nombreux. Internet, le live sur internet est une immense nouveauté pour moi par rapport à mon parcours d'avant, mais continuer à faire du direct, c'est en fait, c'est très cohérent par rapport à tout ce que j'ai fait avant, c'est ce que je fais depuis toujours finalement. Voilà. C'est aussi pour ça que je pense que Twitch m'a autant plu, quoi, et que j'aime bien faire un live aussi sur TikTok. Voilà. Sachant que les communautés sont pas si éloignées. Enfin, si, enfin, forcément, il y a des différences, mais dans le chat des deux, finalement, il n'y a pas tant de différences que ça, quoi. Salut Alex. Coucou Samuel, depuis peu en reconversion pro. Ton émission Ma vie pro m'a pas mal motivé. Difficile pour moi d'écouter tes matinales. J'étais en télétravail désormais. Je suis en cours à distance. Bravo à toi. Impossible d'écouter les deux. Miss you, surtout en cette période d'actualité intense. Tu sais que d'abord, tu as les replays. Y a une nouvelle fonctionnalité sur Twitch. Quand tu es sub, je crois, tu peux, à n'importe quel moment du live, revenir en arrière. Plus les replays sur ma chaîne Twitch qui sont gratuits. Tu n'as pas besoin d'être abonné. Plus les replays sur YouTube, hein, qui sont accessibles dès le lendemain gratuitement aussi. Plus les podcasts depuis 15 jours, 3 semaines, puisque désormais, toutes les matinées Étienne, point d'exclamation podcast dans le chat Twitch, toutes les matinées Étienne sont disponibles en podcast audio. Spotify, Deezer, tutti quanti. Tutti Quanti n'est-on pas une plateforme de podcast audio? C'est juste une expression. Je ne sais pas si c'est très pertinente. Voilà. Donc tout ça, tu l'as en replay. Hein. Voilà. Salut Benstou. Salut le Québec. Salut William. C'est trop plaisir. On en regarde de partout, quoi, en vrai. Alors, j'ai épinglé un message qui était drôle tout à l'heure de l'ami Diesel dans le chat Twitch. Scamuel, je ne sais pas qui est ce Scamuel, qui regarde tous ses futurs opposants politiques se ridiculiser les uns après les autres, attendant son moment pour poser le spike. J'adore. Voilà. Est-ce que je me délecte de la déliquescence du paysage politique français? Non. Je trouve que c'est... Ads, encore une deuxième blague comme ça, t'es bandef, pas seulement de ma chaîne, mais d'Internet. Hein. Et c'est pas toi qui as eu... Alors l'effet, comme l'effet papillon, l'effet est plus loin, salaire, comme salaire revenu. C'est pas toi qui as eu l'effet salaire hier. Encore une blague comme ça, ADZ, tu n'es pas seulement ban de ma chaîne, tu es ban d'Internet. Parce que j'ai le bras long, j'ai des petites jambes. Mais j'ai le bras très long, je suis bizarrement foutu, j'ai des petites jambes, mais j'ai un très long tronc et j'ai de très grands bras. Donc fais gaffe. Fais gaffe. Donc non, je ne me réjouis pas du spectacle que donne la classe politique aujourd'hui parce qu'en fait c'est plutôt triste. Voilà, bah, c'est pas grave, on va pas tous mourir, hein, c'est pas gravissime, mais c'est plutôt triste. Est-ce que je m'offre à la France? Tes bras traînent par terre? Non, mes bras, non. Est-ce que je m'offre à la France? Merci Jérôme Collat, merci Soso. Merci Sakurero, merci Fabinho, merci Drafts, merci. Est-ce que je m'offre à la France? Est-ce que je m'offre à la France? Est-ce que je vais à la prochaine présidentielle? Le problème, c'est que moi, je m'étais un petit peu programmé pour 2027. Si on va plus vite, 2026, c'est jouable, mais il faudra vite réagir. 2025, ça va être trop court. Sachant que hier, on avait Denis Masseglia, qui est député et qui est streamer aussi, qui était dans le chat, et qui nous a rappelé qu'en cas de démission du président Macron, ce sera très rapide. Il y aura genre quoi, 25 jours entre la démission et l'élection. Et 25 jours, ce sera trop court pour moi. Ouais, entre 25 et 30 jours, un truc comme ça. Ouais. Ce sera trop court. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de créer... de construire, de co-construire 20 à 35 jours. Merci Athénos. Ce programme ensemble, c'est-à-dire on se sert des plateformes, on se sert d'Internet, on se sert de Twitch, on se sert de TikTok, on échange ensemble pendant des mois, je pense que c'est un travail qui doit demander des mois, pour co-construire ce programme ensemble. Voilà. 20 à 35 jours, j'aurai pas le temps. Puis elle a sa signature. Donc ça m'arrangerait pas. J'ai envoyé un texto à Manu, à ce propos, pour lui dire tiens bon la manoche, parce qu'on se donne des petits surnoms avec le président, tiens bon la manoche, essaye de, voilà, de tenir bon jusqu'en 2027 par rapport à ma strat à moi. Voilà. Mais arrête, j'y ai cru. Mais je ne plaisante pas quand je parle de tout ça, c'est marrant, personne ne veut me croire. Tout ça est très sérieux, hein. Vous croyez quoi? Tout ça est très sérieux. Enfin, tu vas devenir président, c'est le projet. C'est le projet. Je vous rappelle le programme. Donc, ok. Idéalement, 2027. À un moment, on y va. Moi, je pense un an avant. Pas plus tôt, pas plus tard. Un an avant. On va chercher les 500 signatures. Pour montrer que cette candidature est sérieuse, donc on va démarcher les élus locaux, les maires, pour trouver 500 signatures. J'y crois, je mobilise la commu, je dis allez voir vos maires, allez voir vos élus. Hein, je vous donne un PDF pour expliquer un petit peu notre démarche, quoi, tu vois. On bosse. Vous m'aidez à trouver les 500 signatures. Hein, j'y consacre un certain temps. D'autres l'ont fait avant moi, les 500 signatures, c'est pas totalement impossible, quoi. Deuxième étape, on co-construit notre programme ensemble, c'est-à-dire qu'on fait des lives d'actualité le matin, et puis dans la foulée, salut Arnaque, moi si tu peux, l'après-midi, le soir, on fait des lives de co-construction. T'as besoin d'un parti, mec? Eh non. Macron n'avait pas de parti. Il a lancé son parti au moment de sa campagne pour la présidentielle. Donc tu n'as pas besoin de parti pour conquérir l'Élysée en France. Tout ça c'est prévu, tout ça c'est pensé. Et donc, on co-construit ce programme ensemble avec des lives sur les retraites, des lives sur l'éducation nationale, des lives sur la sécurité, etc. On se met d'accord, on se met pas d'accord. Bon, on sera pas tous d'accord sur ce qu'il faut faire, on est d'accord, mais on en parle, on va au-delà de l'actualité, on va au-delà des constats, des problèmes, on se pose la question des solutions, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. On se met d'accord à coup de sondage en interne. Voilà. Bon, tout le monde ne sera pas d'accord avec le programme, mais globalement, ce sera le programme de la communauté. Et puis, une fois qu'on a ce programme et les 500 signatures, on va se présenter au premier tour de la présidentielle. Voilà. Évidemment, le programme sera tellement séduisant que ça nous fait passer au deuxième tour. On gagne la présidentielle. Et puis après, ce programme qu'on a co-construit, eh bien, je le propose au Parlement. Le Parlement issu des législatives, elle-même issue de la dissolution de l'Assemblée que je prononcerai en tant que président de la République. Voilà. Et puis le Parlement vote ou pas mes réformes, hein, je leur dis voilà le programme que nous avons construit pour la France, vous le votez pas, faites ce que vous voulez. Et puis s'il le vote, très bien, s'il le vote pas, tous les ans je donne rendez-vous aux Français pour un grand référendum, puisque interroger la citoyenneté ça n'est pas une fois tous les 5 ans. Je pense qu'il faut poser la question aux Français plus souvent. Et une fois tous les ans, hein, on fait un grand référendum avec 5 questions par exemple sur 5 réformes, et les Français vous me dites ça on le fait ou on le fait pas, let's go, bim, démocratie direct, voilà. Et puis à la fin, il n'est pas impossible que j'abolis. Je propose dans ce référendum, je suis en train d'y réfléchir. Il y a un monde où dans ces référendums annuels, je propose peut-être la suppression de la fonction présidentielle. Comme ça, je serai le dernier. Voilà. Et on passe à un régime un peu plus mature démocratiquement. On a moins besoin de cette figure titulaire, héritage finalement de la monarchie. Avec ce président omnipotent, en tout cas qui a des pouvoirs extrêmement importants. Hein. Et je pense que les Français sont mûrs pour passer à une démocratie plus aboutie, voilà, vers un régime parlementaire. Voilà, sans la figure du président, avec obligation pour les partis de se comporter, on va en parler beaucoup ce matin, de manière plus responsable. Pour former des coalitions en fonction du vote des Français. Voilà, c'est la définition d'un régime parlementaire. Voilà. Voilà le projet. Tu instaures la royauté. Non, je fais l'inverse. Je supprime la monarchie républicaine qui est quelque part le régime de la Ve République. Qui est un régime que j'ai beaucoup loué au cours de ma vie, parce que je trouve que c'est un régime qui répondait à plein de soucis, notamment d'instabilité politique sous la 3e et la 4e République. Je trouvais que c'est un régime dont la France avait besoin à un moment. Je pense que ce régime a vécu, et je crois que les Français sont prêts et mûrs pour un autre régime. Voilà. Alain Hervé, je réponds pas à ta question. Non pas parce qu'elle est mal écrite, mais parce qu'elle n'est pas intéressante. Donc tu peux arrêter de la spammer. Excuse-moi, je parle un peu au chat. Bon, ouais. Trêve de bilvesée, trêve de plaisanterie. Est-ce que vous êtes prêts pour un sommaire ? Oh, d'abord, les amis, faites-moi plaisir. Ce soir, vous venez. Hein. Vous venez là. Hein. Attendez, je vous la mets aussi. Hein. Ce soir, les amis, vous venez là. Hein. Le bingo. Parce que vu l'actualité, c'est 20h, c'est sur Twitch. Vu l'actualité, on a besoin de sourire, de respirer, de se détendre un petit peu, quoi. On vous a concocté un jeu magnifique. Un jeu plaisir, un jeu où on va tirer des boules, hein, le bingo, on va tirer des boules. Voilà, on va jouer avec les boules, on va tirer des boules. Et à chaque boule, il y aura une surprise, à chaque boule, il y aura des questions, il y aura des quiz, il y aura des mini-jeux. Voilà, la rigolade, voilà, le bingo, vous connaissez le bingo, hein. Voilà, on mélange les boules, on tire des boules. Voilà, sauf que au lieu de s'arrêter à un numéro et de remplir des grilles, il y aura derrière les boules, il y aura des surprises. Ouais. Ça pourrait être un titre de film, ça, d'ailleurs. Ouais. Et donc, il y aura l'ami Jiraya, il y aura DFG, il y aura Elidia, on va bien rigoler. Et puis, le public va jouer, parce qu'il y aura un public, il y aura une 50aine de personnes dans un cinéma parisien. Le public aura des grilles de bingo, et ils pourront gagner des trucs. Et puis le chat pourra jouer aussi, bien sûr. Voilà. C'est à 20h, c'est à 20h, sur Twitch. Faites-moi plaisir, c'est mon gros stream de la rentrée, quoi. C'est un peu mon GP Explorer à moi. J'ai pas Twitch. Mais il n'y a pas à voir Twitch. C'est un lien, tu cliques. T'as rien à télécharger. Tu peux, t'es pas obligé de télécharger un truc qui s'appelle Twitch pour regarder Twitch. Enfin, c'est comme YouTube. Tu vas sur mon, sur mon compte X, enfin sur mes réseaux sociaux, Insta et autres. Tu cliques ça. T'as un lien. Il y a un lien, tu vois, c'est comme YouTube. Voilà, tu vas sur tu vas sur Google. tu vas sur Google. Tu tapes Twitch. Une fois que tu es sur Twitch, tu tapes Samuel Etienne dans la barre de recherche, tu as ma chaîne, tu cliques. Littéralement, tu as une souris, enfin, tu as un téléphone, tu as un iPad. Let's go, tu es avec nous ce soir, quoi. C'est la rigolade. J'ai pas Google. Ah, vous me cassez les... Pardon, excusez-moi. Ah, oh, merci, Anna. Est-ce qu'on peut envoyer un max de force à Anna dans le chat Twitch, s'il vous plaît, qui nous dit... Anna, pardon, je veux pas te déranger, je veux pas te gêner, mais... je suis scolarisée à la maison, nous dit Anna, suite à des problèmes de santé. Force à toi, Anna. Et tes lives du matin m'aident beaucoup à me motiver à travailler sereinement. Pardon, merci, tu sauves mes années lycée. Alors, je pense que c'est un peu exagéré. Je pense que je ne sauve rien du tout. Mais Anna, merci beaucoup. Et le chat est en train de t'envoyer plein de force, plein de cœur. Les amis de TikTok, vous n'avez pas le message d'Anna, mais n'hésitez pas à balancer plein de cœur aussi pour Anna, s'il vous plaît. Qui est obligée de rester à la maison en raison de problèmes de santé. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà, donc les amis, un live en mode festif un peu ce soir. Voilà. Et puis ça n'est pas tout, hop, puisque demain mercredi cette fois, encore des dingueries, puisque demain mercredi on a deux choses. On a à 10h, c'est l'image du bas. Attendez, faut que je vous le montre TikTok aussi parce que vous l'avez pas. Voilà, hop. À 10h, donc c'est MVP. Voilà, ça c'est mon émission deux fois par mois. MVP, c'est ma vie pro, c'est l'émission qui parle de la vie professionnelle, des métiers, des secteurs d'activité, tout ça, voilà. Donc, de façon chill, genre t'es au collège, t'es au lycée, t'es étudiant, tu te demandes ce que tu vas faire plus tard. Ou alors tu bosses déjà, puis t'auras peut-être envie de changer de vie pro. Eh ben, ma vie pro, c'est un magazine qui... merci, ça paye, c'est Pia. Qui, deux fois par mois, le mercredi, à 10h, me parle de tout ça, mais de façon chill, quoi. Voilà, l'émission est vraiment sympa, c'est la deuxième saison. À chaque fois, j'ai toute une bande de chroniqueurs hyper sympas. Là, par exemple, c'est Ludo, Ludovic B, qui est un spécialiste des métiers. Il y a Ben Nevers, qui est un youtubeur que j'adore, et puis Marie Palot, qui est une bonne amie. Donc, on parle de plein de sujets, et on reçoit plein d'invités. On a au moins 3-4 invités à chaque fois. Par exemple, là, il y aura une prof de français, je crois, pour parler des métiers de l'éducation nationale, notamment. Il y a une question qu'on se posera aussi, c'est pourquoi il y a plein de sondages qui disent qu'il y a beaucoup de salariés français qui n'aspirent pas à plus de responsabilités. Ils ne veulent pas devenir manager, ils ne veulent pas devenir chef. Il y a beaucoup d'enquêtes qui disent ça, je trouve ça hyper intéressant, donc on va en parler. Voilà. Et puis, à midi, toujours dans MVP, à chaque fois on a un invité un peu spécial, l'invité MVP. Voilà. Alors vous l'avez déjà sur Twitch et je vous le mets également sur TikTok, vous allez voir, c'est une dinguerie. On a monsieur Alexandre Astier, voilà, rien que ça. Ouais. Alexandre Astier, ouais, le papa de Kaamelott. C'est sur Twitch, ça, par contre, ouais. C'est vraiment... les amis de TikTok, il faudra venir sur Twitch. Sur TikTok, je mets que mes revues de presse le matin. Tout ce que je fais, manager égale emmerdement. Exactement, AD, c'est un peu ce que disent plein de Français. Et donc, sur TikTok, je mets que mes lives de revues de presse. Tous mes autres lives, c'est que sur Twitch, voilà. Et donc, on a Alexandre Astier, demain à midi, pas pour 5 minutes, hein. Pas pour 10 minutes, hein. Eh ouais, c'est Twitch, on a le temps. C'est pas une petite ITV à la vite, à la va comme je te pousse. Comme on voit beaucoup en radio, en télé, c'est une heure. Une heure avec Alexandre Astier. Une heure avec Alexandre Astier. Voilà. Avec le chat. Donc, si vous avez des questions à poser à Alexandre Astier, eh ben, j'aurai le nez dessus. Hein, comme ça, moi, je fous rien, je bosse pas. Je dis bonjour, Alexandre Astier, vous êtes qui? Je sais pas qui vous êtes. Le chat, vous avez des questions, tu vois. Let's go. Non, en vrai. Donc, voilà, c'est un bel invité. Et donc, soyez là demain, ça sera sympa, quoi. Et par contre, ça, c'est pas en podcast, non. Ouais, ça, pour l'instant, c'est pareil. En podcast, les podcasts, je les ai lancés il y a 15 jours seulement. En podcast, pour l'instant, il n'y a que la matinée Étienne. Ouais. C'est quoi son actu acheté? Rien, trois fois rien. Il sort un film. Il y a un podcast MVP? Oh merde, c'est pas moi qui m'en occupe. Ok, il y a un podcast MVP. Okay. Oui, t'as raison, ouais. Toi pour moi, toi pour moi. Merde, j'ai oublié. Oh la honte. Ah oui, il y a un podcast MVP, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Oh putain. Il y a un podcast. Oui, alors comme vous le savez, il y a un podcast MVP, bien sûr. Ouais, trois fois rien, il sort un film qui s'appelle Kaamelott 2. Trois fois rien. Petite actu, vite fait. Voilà. Samuel L. West, ouais, bah, ce sera pas la première fois, hein, ni la dernière. Hein. Donc voilà, je vous attends demain. Donc ce soir 20h, demain 10h, demain midi, bande de beaux gosses. Ouais, c'est pas mal, hein. Les deux hommes les plus intéressants en ce moment. Merci Laure. Salut Minos, vous êtes trop sympa, hein. L'ambiance est incroyable. Foxtrot, je suis pas très réactif sur les mails, hein, je suis désolé. Je suis un peu débordé, je suis désolé. Salut, tu seras à la PJW? Oui. Je ne devrais pas vous le dire parce que c'est un secret. Mais je leak. On va faire un MVP, si je dis pas de bêtises, spécial PJW. Donc l'émission dont je viens de vous parler. On va faire un MVP spécial PJW. Ouais. En direct de la Paris Games Week. Voilà. C'est pas un secret, tu es sur le site de la PJW. Merde. Ils l'ont déjà annoncé. Ok, d'accord. Bordel, Samuel, je fais que jouer à Balatro. Non, faut pas. Tu penses faire des lives nocturnes, mais moi je stream tous les soirs le lit. Mais sur Twitch. Salut, Caro. K.O., pardon. K.O. là-haut. Tu es le parrain d'une promo, mon école. Ouais. L'école de massage, là? Ouais. Ouais, je suis parrain d'une école de massage. Ah non, tu dois parler de l'école de journalisme. Ah oui, non, parce que c'est une autre. Oui, ça, je devais pas en parler. Ouais, c'est autre chose. Ok. Oui, je suis parrain d'une école de journalisme. Mais enfin, je fais un truc avec une école de massage aussi, mais ça n'a rien à voir. Tu fais le sommaire dans l'ordre? On va faire le sommaire, ouais. Est-ce que Valorant fera partie de ton programme présidentiel dans l'éducation nationale? Le programme, c'est vous qui le décidez, les gars. Quand sort sur YouTube le live avec Astier, Pierre Castor, normalement le lendemain. Le lendemain, ouais. Bien dormir. Oui, je me suis couché tôt hier. J'ai fait un petit stream vite fait d'actu hier soir. Twitch, TikTok d'ailleurs, hein, pour faire un petit peu le point sur la crise politique. Un petit stream rapide de 2 heures. Je voulais garder des choses pour ce matin et pour pouvoir dormir un petit peu, pour être en forme pour le stream de ce soir. Ouais. Bon, est-ce que j'ai votre go? On va peut-être faire le sommaire. Attendez, je vais vous le mettre, le sommaire. Il est où le sommaire? Là, il faut que je l'actualise. Hop. Ouais, normalement c'est bon. Voilà, ouais. On y va pour le sommaire? Ok. Est-ce que tu seras le président de tous les Français? Bien sûr, je serai le président de tous les Français. Alors, let's go. De quoi ça parle ce matin? Vous ne serez pas surpris, on parle un tout petit peu de politique. Mais pas que. Ouais. Mais pas que. Et je vous ai remis les sujets d'hier qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Parce que hier, ce matin, les journaux, ne parlent quasiment que de l'histoire de Le Cornu. Hein? Mais du coup, il y a des sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter hier. Parce que hier, en fait, au début de la revue de presse, est tombé ce breaking news de fou. Pourquoi ma tablette est éteinte? Ce breaking news de fou de la démission de Le Cornu. Hein? C'est-à-dire littéralement de la démission. Enfin bon, ça devient fou. Et du coup, on a fait un peu une spéciale hier. Et donc, il y a des sujets que je n'ai pas eu le temps de traiter. Je me mets sur les articles et je vous fais le sommaire. Donc, je vous rappelle l'exercice. Tous les matins, du lundi au vendredi, sur Twitch et sur TikTok, je vous propose la matinée Étienne. La matinée Étienne, c'est quoi? Bah, c'est, je lis les journaux, les journaux que j'aime bien lire. Hein, je vous montre. Putain, je vous montre tout ça. Voilà. Donc, Le Monde, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe. Hein, voilà. Je pourrais lire plein d'autres journaux tout aussi intéressants. C'est ceux que j'ai choisis parce que je les aime bien. Donc, c'est une revue de presse. Je choisis des actus, je choisis des articles. On lit ça ensemble. Voilà. Et puis, on débat, on échange par rapport à ça. En général, ça dure 3 heures et c'est tous les matins du lundi au vendredi. Le week-end, je fais d'autres choses. Alors, le sommaire aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de politique, bien sûr. Voilà. Le sommaire, on va mettre le TC. Ah, il démarre à 29 minutes. Je le mets si je le trouve. Et où le sommaire ? Voilà, et je ne l'ai même pas mis là. Voilà. Sommaire, 29 minutes. Ok. C'est pour ceux qui nous écoutent ensuite en replay, en podcast, comme ça, ils ont les time codes. Alors, on va beaucoup parler évidemment de la crise politique. J'adore ce titre du Parisien ce matin. Y a quelqu'un ? Ouais, la une, effectivement, est énorme, vous avez raison. Fiasco du gouvernement, vous allez voir, les mots sont assez lourds hein, ce matin, sont assez durs. Il y a quelqu'un ? Emmanuel Macron a confié une mission de la dernière chance à Sébastien Lecornu, qui lui avait remis sa démission le matin même. Les Français n'y comprennent plus rien. Voilà. Cette phrase-là, je pense qu'elle résume ce que beaucoup pensent. Les Français n'y comprennent plus rien. Hier matin, j'ai essayé de vous présenter toutes les possibilités. Cohabitation avec un gouvernement de gauche, cohabitation avec un gouvernement d'extrême droite, démission du président, dissolution, même l'hypothèse de l'article 16, on l'a évoqué. Voilà. Il y avait une hypothèse que je n'avais absolument pas imaginée, tellement c'était surréaliste, c'était que le président Macron demande au même gars qui venait de démissionner, hey, « Eh, tu voudrais pas t'y recoltiner ?» Mais ça, je ne l'avais pas mis dans mes hypothèses. C'est-à-dire que le président Macron, après X échecs de gouvernement qui n'ont pas tenu, Attal, Bayrou, etc., nomme un gars, Sébastien Lecornu, macroniste à droite de l'aile macroniste, ex-LR, voilà, alors que ce camp macroniste a perdu les dernières législatives. C'est pas grave, il en renomme un. Le mec met 3 semaines, 24 jours précisément, à former un gouvernement. C'est un record de durée. Jamais un Premier ministre dans l'histoire de la 5e n'avait mis autant de temps à former un gouvernement. Le mec, il met 3 semaines pour le faire. Quelques heures après, le lendemain, il démissionne. Hein ? Et là, le président dit à ce mec-là, « Tu veux pas recommencer ? Allez, on oublie tout, on recommence. » Ah, ça, je l'avais pas call. Hein ? J'aime bien parce que quand je dis en politique tout est possible, ça a été la démonstration. Voilà. Donc on va en parler. Il y a quelqu'un ? Ben non, il n'y a personne. Voilà, il y a des titres qui sont durs ce matin. Il y a des images qui sont dures aussi, comme celle-ci. Deux hommes un peu isolés, là. Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron au bord du gouffre, nous dit le Parisien. Je vous lirai beaucoup le dossier du Parisien ce matin parce que je le trouve assez complet. Il est assez bien fait. Vous imaginez bien, ce matin, en fait, tous les journaux consacrent un gros dossier à toute cette histoire. Donc je ne vais pas vous lire 6 ou 7 dossiers. Je vais vous en lire notamment un. Le dossier du Parisien est plutôt clair, voilà. Celui de l'Opinion, voilà, journal libéral proche des entreprises, pour vous donner un peu sa ligne éditoriale, est assez bien foutu aussi. Donc je vous le lirai également. Et puis après, on ira voir des unes, notamment parce qu'elles sont exceptionnelles. Voilà, regardez. Les incapables. Voilà, ça, c'est la une de Libé ce matin. Voilà. Alors incapables, oui. Lecornu, Macron et puis Retailleau aussi à droite, qui est un peu à l'origine de cette crise politique, disent beaucoup. Alors, on retrouve un petit peu ces mêmes images d'hommes un peu seuls, d'hommes un peu isolés, voilà. Et dans ces journaux, ben, je lirais souvent les éditos, ces articles où des journaux, les journalistes donnent un petit peu leur avis sur la situation. Je vous lirai des extraits, voilà, pour vous montrer que ben, y a... parce que c'est la question de quelles sont les solutions à cette crise, comment sortir de tout ça, ben, les journalistes ne sont pas d'accord entre eux. Voilà. Et donc, je vous proposerai ces analyses pour que vous puissiez vous faire, vous, votre propre opinion. Et du coup, je vous proposerai différentes analyses, celle de Libération, celle du Figaro, celle de La Croix également. Voilà. Là, on a une image qu'on a vécue, nous, en direct, puisque hier matin, on a regardé en direct l'allocution de Sébastien Lecornu depuis le perron de Matignon. Voilà, et à la fin, on le voit partir, rentrer comme ça, en tournant le dos aux caméras. Voilà, ce qui est une image un peu malheureuse qu'on avait, que Valéry Giscard d'Estaing avait déjà fait quand il avait perdu la présidentielle face à François Mitterrand en 1981. Voilà, donc on lira tout ça. et puis, on reviendra un petit peu en arrière, parce que hier matin, du coup, on a été un peu débordé. Voilà, le fameux au revoir de VGE. Ouais. On a été débordé par l'actualité. Et du coup, ben, y avait trois petits dossiers dont je vous avais pas parlé et dont on parlera ce matin, parce que je les trouve intéressants. C'est comment ChatGPT est entré dans nos vies. C'est un dossier du Monde. Voilà. Et ben, il se trouve que moi, je n'utilise pas. C'est comment on les appelle d'ailleurs, ces IA là, c'est les IA, c'est un nom, c'est elles où on leur pose des questions là, voilà, j'ai oublié, les IA, c'est quoi LLM, c'est quoi LLM, IA générative, c'est quoi LLM, je l'ai pas là, j'ai pas la ref, conversationnel, moi je pensais plutôt à ça moi, c'est quoi LLA, model, large language model. Large Language Model, LLM. Demande à ChatGPT. Bah non, justement, non. Parce que moi, c'est mon côté un peu vieux machin, tu vois. Mais parfois, je mets un petit peu du temps à utiliser les outils modernes. Et moi, je ne me sers pas de ces LLM. Voilà, de ces IA conversationnelles. Voilà. Or, ChatGPT est vraiment rentré dans la vie de beaucoup de Français. Donc, on a un dossier du Monde là-dessus, ce qui me permettra un petit peu peut-être de... Voilà. Donc, de temps en temps, oui, ça m'est arrivé de poser 2-3 questions à ChatGPT, mais je sais que certains l'utilisent vraiment au quotidien. Donc, on en parlera un petit peu. Et puis, moi, je trouvais que... De temps en temps, j'essaie de vous trouver des petites infos un petit peu mignonnes. Voilà. Et ou culturelles, enfin, pour changer un petit peu de Gaza, de l'Ukraine, de la politique. Et là, par exemple, j'ai vu que des Français, pas n'importe qui, hein, le scénariste Jules, qui est bien connu des amateurs de bande dessinée, et un dessinateur qui s'appelle Nicolas Kéramidas, eh bien sortent une bande dessinée, un album Picsou, voilà, parce que Picsou, les Américains, ont laissé deux petits Frenchies faire un Picsou. Picsou face aux crypto-monnaies, Picsou et les bits coin-coin. J'adore. Voilà. Et en fait, il paraît que l'album est super réussi, et je trouve ça assez mignon. Voilà. Et puis, vite fait, si on a le temps, on se posera une question que je n'ai pas eu le temps de vous poser hier, parce qu'on a été pris par le temps. Non, c'est pas Jules, hein. C'est Jules. Ça, c'est Jules, c'est le rappeur. Et Jules, J-U-L, ça s'écrit pareil, c'est un dessinateur de BD, quoi. Voilà, c'est le J. Voilà. Et puis, une question, si on a le temps, c'est de revenir un petit peu sur le GP Explorer, ensemble, en posant cette question. Le GP Explorer est l'événement... Oui, c'est la question que j'ai posée dans le sommaire là. Média ou LEGP, c'est l'événement qui a dominé Internet le week-end dernier. Je vous rappelle pas les stats surréalistes. Hein. Et vraiment, comme beaucoup de gens pour voir cet événement. La presse n'en parle pas. La presse que je lis n'en parle pas. Alors évidemment, sur Internet, tu vas aller gratter 2-3 petits articles vite fait sur les sites Internet de ces journaux. Mais pas dans leur vitrine, dans leur PDF, dans leur format papier, quoi. Voilà. Donc, ça m'interpelle un petit peu. Je me demande pourquoi les médias traditionnels s'y intéressent aussi peu. Voilà. Ouais, ça, vite fait sur franceinfo.fr, vite fait sur lemonde.fr, vite fait sur... Oui, mais pas, tu vois, c'est pas fou. Ouais. Alors peut-être que West France l'a fait, parce que West France, comme ils ont des éditions locales et que West France couvre notamment la région du Mans, il y a peut-être une histoire, peut-être que West France en a parlé. D'autant que West France, je les connais bien d'ailleurs, ils ont des journalistes, ils ont des rédacteurs basés à Rennes, passionnés de jeux vidéo et passionnés d'univers du numérique. Je pense à un garçon qui s'appelle Lou. Notamment, que j'ai croisé déjà au siège de West France, et je sais qu'ils ont très bons journalistes intéressés par ces sujets-là. Ouais. Ouais. Très bon. De toute façon, West France, très bon journal. Ouais. Et pourtant, ça tape les audiences de la télé. Ah bah oui, quand t'es à 1,5 million en pic, oui, je confirme, ça tape les audiences de la télé. Ouais, on est sur les audiences de télé, ouais. Tout à fait. Voilà. Bon, on en parlera tout à l'heure, ok ? On va partir. On est à un TC à 38 minutes pour le début du premier thème qui est donc Macron et maintenant. Donc on est à 38 minutes. Ok, let's go. C'est où? C'est là. Je sais plus. J'ai mis l'écran sous les yeux. Voilà. Voilà. Vous m'autorisez à me lancer un petit café? J'en ai pour 10 secondes. Ok, je vous laisse. Je vous laisse papoter entre vous, mais vraiment super rapide. 10 secondes, hein. Ok. Allez, faites pas les... Oh, allez. Ouais, pour 10 secondes. Mais vraiment 10 secondes. Hein. Je vous ramène un truc. Je vous ramène un truc. Un petit truc. Un Malibu ananas, quelque chose. Ah, mais j'ai pas ouvert le micro. Non, j'avais pas ouvert le micro. Non, je vous disais, il n'y a plus de café. Il n'y a plus de café. C'est la crise, c'est la crise. C'est pas que la crise politique. C'est pas que la crise politique, c'est la crise tout court. Ok. Donc, bon, on va mettre 40, hein, parce que c'est plus vraiment 38, hein, c'est 40. Hein. Sinon, après, Vincent qui s'occupe du podcast, il va arriver à 38 minutes sur la chaîne, il va dire, bah, il n'y a rien, il y a du silence. Ok. Les amis, amis de Twitch, amis de TikTok, amis qui nous écoutaient en podcast audio, bienvenue dans la matinée Étienne. C'est tous les matins du lundi au vendredi, on lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, c'est la fête. Et évidemment, ce matin, on va beaucoup parler de cette crise politique hein, qui se tient et se déroule en France sous nos yeux. Il y a quelqu'un, se demande le Parisien ce matin en sa une. Fiasco du gouvernement. Je vais prendre le temps de vous lire le dossier du Parisien qui me semble plutôt bien fait, qui explique de façon assez claire le sujet. Donc je rappelle les événements précédents, les épisodes précédents pour ceux qui l'auraient raté. Emmanuel Macron a confié une mission de la dernière chance à Sébastien Lecornu qui lui avait remis sa démission le matin même. Les Français n'y comprennent plus rien. Si vous n'y comprenez rien, amis qui nous regardez ce matin, amis qui nous écoutez, eh bien c'est normal. Vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Les Français n'y comprennent rien. Samuel Etienne n'y comprend rien non plus. Hier matin, au même endroit dans cette revue de presse, j'ai essayé d'évoquer toutes les hypothèses qui allaient suivre la démission de Lecornu. Hein. Je vous ai dit, ça peut être une cohabitation avec un gouvernement de gauche décidé par Macron, hein, une cohabitation avec un gouvernement d'extrême droite, RN décidé par Macron. Ça peut être une dissolution de l'Assemblée décidée par Macron. Ça peut être une démission du président Macron. Ça peut être même, on a même évoqué l'article 16. Je n'avais pas imaginé un seul instant que le président Macron allait demander au Premier ministre qui venait de démissionner quelques heures seulement avant, après la nomination de son gouvernement, la veille, le dimanche soir, qu'il allait demander à la même personne de retenter le truc. Voilà. Ce qui est beau en politique, c'est que tout est possible. Lisons l'édito pour commencer. Merci Culotte Courte, merci Moi, merci Pandalf, merci Pag, merci Carless Child, merci El Caprice, merci Onigami, pardon, je remercie les subs de ce matin, merci Alexandra, tu régales, merci Williams, merci Le Porco Rosso, merci Sakurero, merci Alfabinho, merci Draft, vous êtes incroyable, merci Samantha, merci Mo, merci Chewbacca. Commençons par l'édito de Nicolas Charbonneau qui nous donne son avis là-dessus, on est dans Le Parisien. Le spectacle donné ces dernières heures par les petites épiceries politiques n'a pas de quoi réjouir. Or, on a même vu ressurgir Lucie Castet du néant. C'est Lucie Castet, un moment qui s'était vu un petit peu en chef de file de la gauche, quoi. Après les législatives, notamment perdues par le président Macron. Et on a du mal à comprendre, écrit le journaliste, comment des personnalités de premier rang peuvent accepter un poste gouvernemental le dimanche matin avant de s'interroger publiquement dans la soirée. Parce que littéralement, c'est ce qui s'est passé en France. Il y a des gens qui ont accepté, notamment des ministres de droite, de rentrer au gouvernement le dimanche matin, et le soir, qu'on dit « Ah ouais, mais non, mais on m'avait pas dit qu'il y avait l'autre, là, Bruno Le Maire. Ah ben non, dans ce cas-là, je m'en vais. » C'est ça qui s'est passé. Pardon. On a l'impression d'être dans une cour de récréation, et encore plus du côté maternel que du côté collège, quoi. Je me permets ce petit jugement. Avoir des convictions est honorable et même salutaire, écrit le Parisien, mais à ne tracer que des lignes rouges, on bloque tout. Hein, oui, moi je veux bien gouverner, mais pas avec lui, parce que vraiment, non, on n'est pas d'accord. Le cornu n'aura finalement rien pu faire, son gouvernement n'aura duré que 14 heures et 26 minutes. France, 2025, nous avons eu un gouvernement qui a duré 14 heures et 26 minutes. Vous savez quoi ? Eh ben, c'est pas un motif de fierté. Et maintenant, c'est la question qu'on se pose tous. Les Français hésitent entre sidération, genre mais qu'est-ce qui se passe ? Lassitude, on n'en peut plus, il y en a marre. Ou franc ras-le-bol, la colère. Et peut-être un peu de tout cela réuni. Car il y a ceux qui avancent malgré tout, qui font tourner l'économie, la santé, l'éducation, la sécurité, qui attendent un budget, parce que ce pays n'a toujours pas de budget, hein, et pas de gouvernement, il ne peut pas y avoir de budget, et des réformes urgemment, des Français oubliés de la séquence pathétique que l'on traverse, cocus du moment d'une classe politique attentive à quoi ? À sa seule boutique. Désormais, tous les regards convergent vers qui ? Bah, vers l'Élysée. On en a gros, oui, exactement, Pingtou. C'est pas une ref à Kaamelott, ça ? On en a gros. Désormais, tous les regards convergent vers l'Élysée, son locataire plus seul que jamais, silencieux en son palais, qui donne le sentiment d'avoir détourné le regard, on part d'Emmanuel Macron, bien sûr. Comme si la politique intérieure ne l'intéressait plus vraiment et que son attention se portait loin d'ici, sur la géopolitique du monde. Là où on ne lui rappelle pas la situation chaotique dans laquelle la dissolution a entraîné le pays. Pour moi, je me permets de le rappeler, le président Macron est responsable pour une partie importante de cette crise politique, notamment parce qu'il ne s'est pas engagé dans la campagne des législatives qui a suivi sa réélection à la présidentielle, comme s'il enjambait cette élection pourtant essentielle pour lui garantir une majorité. Première erreur, première faute politique. Voilà. Et une fois qu'il avait commis cette première erreur, il en a fait une deuxième en prononçant la dissolution de l'Assemblée au pire moment, en affaiblissant encore plus son camp. Voilà. D'où la situation chaotique dans laquelle la dissolution a entraîné le pays, évoquée par le Parisien. Il a donné à son Premier ministre quelques heures pour trouver une issue. Il suffirait de peu pour que cela fonctionne, disait Sébastien Lecornu, peu après sa démission. Ce peu, qui semble un défi hors de portée des appareils et des ambitions personnelles. Qu'est-ce que nous dit le Parisien là ? Et je suis assez d'accord avec ça. Le peu que Sébastien Lecornu évoque, le peu pour que ça fonctionne, c'est quoi ? C'est dans la situation actuelle d'une assemblée divisée en plusieurs grands groupes qui empêche le fait majoritaire, c'est-à-dire qu'un exécutif, qu'un gouvernement soit soutenu par une majorité relative ou absolue à l'assemblée pour que cet exécutif puisse mettre en œuvre ses réformes à minima, faire passer un budget par exemple. Ça n'est pas possible. Parce que l'Assemblée est éclatée entre plusieurs gros blocs qui ne peuvent pas gouverner seuls. Ok, qu'est-ce que vous comprenez pas, les gars ? Je parle pas à vous, je parle aux politiques. Qu'est-ce que vous comprenez pas ? Aucun d'entre vous n'a la majorité. Aucun d'entre vous n'a la capacité de gouverner seul ce pays. Qu'est-ce que vous comprenez pas ? Hein ? Parlez-vous ! Hein ? Faites comme tous nos voisins dans les régimes parlementaires. Hein ? Faites des coalitions. Hein ? Voilà. Mettez un peu d'eau dans votre vin, mettez, comme le dit Lecornu, un peu moins de, comment il disait, un peu moins de lignes rouges et un peu plus de lignes vertes. Voilà. Vous n'avez pas le choix. Les Français ont voté ainsi. Voilà. Vous n'avez pas redemandé tous les lundis aux Français à revoter. Voilà. C'est ça que dit le Parisien. Voilà. Donc ça, c'est l'une des analyses possibles. Alors après, on peut faire d'autres analyses en disant, ah bah dans ce cas-là. Puisqu'ils ne sont pas capables, les partis politiques, de tirer les conclusions de la situation politique actuelle, on n'a qu'à refaire les élections. Hein. C'est un petit peu la philosophie de tous ceux qui disent on n'a qu'à faire encore une nouvelle élection législative. Hein. Ou alors on n'a qu'à refaire une présidentielle. Et c'est quelques-unes des analyses qu'on va voir ce matin. Analyse de politique, analyse de journaux. On n'a qu'à revoter. Voilà. Et moi, je ne pense pas que c'est la solution. Bah, je pense que la responsabilité de notre classe politique, c'est de s'adapter au vote qui a été celui des Français. Voilà. Bon, continuons parce que là, je suis un petit peu bavard. Emmanuel Macron au bord du gouffre, écrit le Parisien. Merci, petite poquette. En l'espace de quelques heures, les Français ont vu le Premier ministre démissionner, hein, puis le chef de l'État lui accorder 2 jours supplémentaires afin de mener un nouveau cycle de négociations. Avec quel effet ? Attendez, je lis un message qui est très intéressant. Hein. Parce qu'il y a un pfff dedans. Mais arrête ! avec la coalition. C'est pas jouable avec la 5ème République et le pouvoir exécutif au-dessus du Parlement. Si, ça demande juste un petit peu d'intelligence politique à ses acteurs. Voilà. Qu'est-ce qui empêchait le gouvernement Macron de tirer les conclusions des législatives qu'il a perdues? Qu'est-ce qui lui empêchait de nommer un Premier ministre de gauche et d'accepter une cohabitation que dans le passé, Jacques Chirac et François Mitterrand avaient accepté? Qu'est-ce qui empêchait Emmanuel Macron d'estimer que, plutôt que la gauche, c'était éventuellement le RN qui avait gagné ces élections, comme le RN l'affirme? Qu'est-ce qui l'empêchait de nommer un Premier ministre d'extrême droite? Voilà. Il a perdu les élections ou il n'a pas perdu les élections? Voilà. Donc à un moment, c'est pas la règle du jeu qui empêche cette solution. C'est l'intelligence politique des acteurs ou l'ego. Voilà. De toute façon, à quel moment l'ego, c'est un signe d'intelligence? Donc comme quoi, c'est un peu le même problème. Donc arrêtez avec vos pfff. Hein, pfff toi-même d'abord. Une ombre et une cible, je reprends ma lecture du Parisien. Les images captées par BFM d'un Emmanuel Macron marchant seul sur les quais de Seine ce lundi matin présentait une bien cruelle allégorie. Après le fiasco de la nomination du gouvernement, soldé par la démission de son 7e Premier ministre, Sébastien Lecornu, 7e Premier ministre, hein. Le chef de l'État n'est plus au pied du mur mais face à lui. Aux prises avec une énième crise, peut-être la plus grave qu'il ait eu à affronter depuis la dissolution de 2024, doublée d'un stupéfiant psychodrame. Voilà. Dans le viseur est fragilisé comme jamais, il est quasiment mort, s'alarme un supporter, mais mutique. C'est vrai qu'il parle pas beaucoup. Voilà. Peut-être qu'il réfléchit à ce qu'il va faire. Peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Oh, la flèche sur le sommaire. Autant pour moi. Tu as raison. Bien joué, bien vu. Je manque à tous mes devoirs. La petite flèche dans le sommaire, elle vous indique là où on en est. Ce qui permet à ceux qui nous rejoignent pendant la revue de presse de savoir si on a déjà parlé d'un sujet, si on va parler d'un sujet. Voilà. Là, j'avais oublié de mettre la flèche. Merci. Bien vu. Vous êtes formidable. Voilà. Donc, le président Macron réfléchit sûrement en ce moment. Voilà. Et peut-être qu'il a une idée, peut-être qu'il n'en a pas. Son seul message du président Macron a pris la forme d'un communiqué d'Élysée à 18h lundi annonçant « Le président de la République a confié à M. Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire en charge des affaires courantes, la responsabilité de mener d'ici à mercredi soir d'ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays. » Merci Skyrim. Donc Macron a demandé à Lecornu, qui vient d'échouer dans cette mission, de former un gouvernement et de créer une forme de stabilité. Donc le gouvernement a tenu combien d'heures? 14 heures. Il vient de demander à la même personne de réessayer. On ne sait jamais sur un malentendu. Peut-être que ça peut marcher cette fois. Bon, après tout, c'est de la politique, tout est possible. C'est fini. Avec ce que vient faire Retailleau, je ne peux pas rester, disait pourtant Lecornu, qui lui estime que c'est une mission impossible. Que s'est-il donc passé entre le coup de fil nocturne au cours duquel les deux hommes ont acté que Lecornu présenterait sa démission ce matin et le revirement de fin de journée? C'est bien de poser la question parce que je me la pose aussi. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Lecornu a dit à Macron moi je démissionne, le truc est impossible? Alors ça c'est une chose, mais Macron n'est pas obligé d'accepter la démission. Or il l'accepte, il dit bon ok d'accord, t'as raison, c'est le bordel. Quelques heures plus tard, Macron demande à la même personne, en fait, si, on va essayer quand même. C'est des trucs de boutiquier, quoi. C'est pas foufou, quoi. Entre un déjeuner avec des représentants des pharmaciens, une visite de repérage au Panthéon avec Elisabeth Badinter, et avant une grande cérémonie jeudi, Emmanuel Macron n'a pas perdu une miette des déclarations des uns et des autres. Il a observé que sur le plateau du 13h de TF1, le patron de LR, Bruno Retailleau, marquait une inflexion, sa volonté de travailler sur le fond, que les socialistes ont dit ne pas vouloir d'une dissolution. On est vraiment dans les micro-espaces quand même. Hein. Quant à Bruno Le Maire, il a appelé au château, c'est l'Élysée, pour prévenir qu'il renonçait aux armées afin de ne pas envenimer la situation. Ah oui, alors là on a une piste d'explication. Ce qui a provoqué la crise, c'est Bruno Retailleau, notamment en disant « Ah ouais, non, mais s'il y a Bruno Le Maire au gouvernement, moi non, hein, je n'y vais pas. Hein. » Pardon, ce sont des comportements d'enfants. Hein. Gâtés. Ouais. Donc là, maintenant, on a Bruno Le Maire qui dit « Ah bah d'accord, alors si vraiment c'est moi qui pose un problème, alors je vais pas y aller. » Alors Macron se dirait « Alors si Bruno Le Maire n'y va pas, alors que c'est Macron qui a validé le retour de Bruno Le Maire au gouvernement, hein. » Macron dit, alors, du coup, maintenant, comme Bruno n'y va plus, peut-être que Bruno Le Maire, c'est la guerre des Bruno. Hein. Comme il y a un Bruno qui n'y va plus, peut-être que l'autre Bruno sera moins fâché. Waouh! Waouh! Il y a une stupeur de la classe politique. On voit bien ces dernières heures que les forces politiques ont été saisies par ce qu'elles avaient été. Ce qu'elles avaient. Qu'est-ce que. Rien dire cette phrase. Quoi? On voit bien. Quoi? Ça veut rien dire cette phrase. Il y a une stupeur de la classe politique. On voit bien ces dernières heures que les forces politiques ont été saisies par ce qu'elles avaient été créées. Ouais. Un peu comme Frankenstein, quoi. Je lis la suite de l'article pour voir s'il y a du nouveau. Alors certains ne comprennent pas. Hein, voilà. Gabriel Attal, on parle quand même de Gabriel Attal, ancien premier ministre de Macron. On parle quand même de Gabriel Attal, le chef de Renaissance, hein, le parti de Macron à l'origine. Hein. Gabriel Attal, deux points ouvrez les guillemets, je ne comprends plus hein, les dissolutions du président de la République. Si Thomas, je lis aussi le chat de ce côté-là. Mais là, pour l'instant, je lis les articles et après, je vous lirai un peu plus, désolé. Gabriel Attal, je ne comprends plus l'édition du président de la République. Il y a une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, même dans le camp présidentiel, les gars disent, bah, désolé, on ne comprend pas. Hein. Même ses lieutenants, bien que sévères vis-à-vis de LR, s'interrogent sur sa stratégie, abasourdis, incrédules à voir la mécanique de la mort enclenchée ce week-end. Parmi les questions que les membres de la majorité ressassent, parce qu'on n'est pas les seuls à nous interroger, hein, celle-ci, pourquoi avoir promis la rupture, le Cornu l'avait promis la rupture sur le fond et sur la forme, reconduire la quasi-intégralité du gouvernement précédent, à quel moment tu crées une rupture avec les mêmes ministres que chez Bayrou, okay. Comment ne pas pressentir que le retour de Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie, surnommé Monsieur Dette par la droite, agirait comme une étincelle. Hein. C'est inquiétant, on s'est mis tout seul dans la merde, convient dépiter un chef infidèle du chef de l'État. Voilà. Alors, quelle carte reste aujourd'hui au président Macron, se demande le Parisien. Reconduire le Cornu, donc c'est le truc tellement fou que je ne l'avais pas imaginé hier matin. Bon, c'est la piste explorée actuellement par le président. L'intéressé qui a accepté de jouer les prolongation façon moine-soldat a tenu à écarter l'hypothèse de lui-même. En gros, il a dit au président Macron « Ok, je vais essayer de former un gouvernement, mais moi, je ne serai pas Premier ministre. Hein, j'en veux plus de ton truc. Hein. » Ok. Dans le sillage du président, on énumère désormais ses options. Nommer un Premier ministre issu du socle commun, comprenez le camp macroniste centre élargi à la droite compatible, hein, ou alors de la gauche, nommer un Premier ministre de gauche. Voilà, et accepter une cohabitation avec la gauche. Ou alors, un profil technique, bon, c'est le fameux mirage du gouvernement technique avec des spécialistes, le truc ne tient pas la route non plus. Voilà. Sans compter la dissolution, dont on va beaucoup parler ce matin aussi, hein, qui est une autre solution, qui était dans toutes les têtes ce lundi. Tout est sur la table, souffle un intime. Un intime du président dit « tout est sur la table ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Macron n'a aucune idée de ce qu'il va faire. A priori. Merci The Voyageur, merci Skyrim, merci Petite Pocket. Certains parmi ses soutiens en viennent même à imaginer un plan machiavélique. Qu'il ne cherche qu'à gagner du temps et à montrer que la gauche est irréconciliable. C'est vrai que la gauche est divisée aujourd'hui, bien sûr. Avant de dissoudre pour éviter la démission. Voilà. Mais dans le maelstrom actuel, l'hypothèse en fait hurler plus d'un. Quoi ? Une dissolution ? Les gens vont se foutre de notre gueule. Autant que le président donne sa démission, ça ira plus vite. Lâche un ministre. Voilà. Rappelons que le président, il a déjà dissous il y a un peu plus d'un an. Quoi. Hein ? Notre médiocrité ne justifie pas à elle seule de faire retourner 48 millions d'électeurs dans les urnes, tranche la députée EPR Maud Bréjon. Voilà. Sans compter qu'il y a quand même une forte probabilité que de nouvelles législatives donne encore plus de députés au Rassemblement National, voire une majorité absolue au RN. Ça nous donnerait une cohabitation assez étonnante entre le président Macron et un gouvernement Rassemblement National. Voilà. Je vous lis un petit peu quand même, parce que je vais beaucoup parler là. Merci Liptonix. De toute façon, on va passer en revue toutes les possibilités, toutes les hypothèses, toutes les solutions ce matin. Aquakuma, est-ce que les tentatives successives de Macron d'imposer son camp n'a pas créé une rupture définitive de confiance? Si c'est un nouveau Premier ministre de droite ou de socle commun, censure de gauche. Si c'est un ministre de gauche, censure de droite. RN et LFI qui censurent dans tous les cas, c'est mort. Alors rappelons que pour qu'une censure du gouvernement passe, il faut que les voix de la gauche ne suffisent pas à censurer un gouvernement. Les voix du RN ne suffisent pas à renverser un gouvernement. Il faut que, par exemple, des députés RN votent une censure avec des députés de gauche. Et que des voix, par exemple LR, s'associent à minima aux voix du RN ou aux voix des députés de gauche, quoi. Donc, contrairement à ce qu'on imagine assez facilement, cette censure du gouvernement, elle n'est pas si évidente, quoi. Je vous lis, hein. Alors Emma dit, et je suis assez d'accord avec toi, on peut passer en vue toutes les hypothèses qu'on veut, je parie que la suite on l'aura pas imaginée. C'est vrai que c'est un peu ce que nous vivons. Je vous lis, pardon, excusez-moi. Alors, vous êtes nombreux à parler d'Edouard Philippe. Edouard Philippe, lui, il est l'une des voix, parce qu'il n'est pas tout seul, hein, à demander une présidentielle anticipée. Bon, alors, il y a plein de gens qui disent « Ouais, Edouard Philippe, c'est incroyable, il appelle à une présidentielle anticipée. » Alors, des gens qui appellent à une présidentielle anticipée, il y en a d'autres. Hein. Marine Le Pen appelle à des législatives ou à une présidentielle anticipée. Comment il s'appelle le président du parti RN, le jeune là, celui qui a écrit un livre là, qui a des lunettes maintenant, qui joue aux jeux vidéo avant là. Bardella. Jordan Bardella, il appelle à une présidentielle anticipée. Jean-Luc Mélenchon appelle à une présidentielle anticipée. Donc, ne faisons pas des petits sauts de cabri en disant « Ouais, c'est incroyable, Edouard Philippe a demandé une présidentielle anticipée. » Il y a plein de responsables politiques aujourd'hui qui demandent une présidentielle anticipée. Bon. Dites-vous que ceux qui appellent aujourd'hui une présidentielle anticipée, ils le font pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont un coup à jouer. Hein. Et c'est l'un des soucis qu'on verra un peu plus tard dans la matinée ce matin. C'est que l'une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas aujourd'hui en France, c'est l'obsession présidentielle d'un certain nombre de dirigeants en France, hein, qui ne jurent que par la présidentielle et qui font passer l'intérêt du pays bien après cette ambition et cet ego, quoi. Voilà. Donc pardon de ne pas me passionner pour les stratégies présidentielles de chacun. Mais bon, dites-vous juste que tous les gens qui appellent à la présidentielle aujourd'hui, ce sont des gens qui ont intérêt à le faire, quoi. Alors c'est vrai que Marine Le Pen, c'est un cas qui m'intrigue un peu. Il y a chez Pifan qui dit, mais même Marine Le Pen, parce que chez Pifan a raison, Marine Le Pen, elle est inéligible aujourd'hui. Elle a été condamnée dans l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen. Et normalement, surtout si il n'y avait que 20 à 35 jours entre la démission du président Macron et le premier tour de la présidentielle, elle n'est pas éligible. Voilà. Normalement. Donc, voilà. Alors, elle appelle à une dissolution. Je pense, moi, mon analyse, mais je peux me tromper, C'est vrai qu'elle insiste un peu plus sur la dissolution, mais ce matin, je suis allé vérifier, comme Bardella, elle appelle aussi à une nouvelle présidentielle. Et je pense qu'elle le fait, parce que si elle ne faisait que appeler une dissolution, tout le monde lui dirait « Ouais, évidemment, maintenant, tu parles plus de présidentielle parce que tu peux plus être élu, quoi. » Donc, je pense qu'elle est un peu obligée, puisqu'elle l'a demandé dans le passé, d'appeler une présidentielle, sinon, on se moquerait un petit peu d'elle, quoi. Mais je pense qu'au fond d'elle, elle n'a pas du tout envie d'une présidentielle maintenant. Après, mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est la mienne. Voilà. Ah oui, bien sûr, par contre, ceux qui disent « Mais elle peut être nommée première ministre par un Bardella président, par exemple ?» Oui, ça n'est pas un mandat, hein, Premier ministre. Tu es nommé, tu n'es pas élu. Mais bon, pardon, Marine Le Pen, elle ne s'est pas présentée à combien de présidentielles déjà ? Elle n'a pas fait la carrière politique qu'elle a faite pour être la première ministre d'un président qui serait Bardella, quoi. Je pense que c'est compliqué à avaler, quoi. Alors, on me dit qu'elle a déjà déclaré qu'elle ne souhaitait pas être première ministre. Ouais, c'est pas foufou, quoi. Enfin bon, on en reparlera. De toute façon, vous savez quoi ? Toutes ces questions-là, on se les posera si il y a une présidentielle. Est-ce que c'est vraiment la peine d'imaginer tous les scénarios, les scénarii, diraient les puristes, mais les scénarios, puisqu'on n'est pas obligé de parler... on peut franciser le mot, quoi. Est-ce qu'on est obligé de poser tous les scénarios d'une éventuelle présidentielle, alors que on ne sait pas s'il va y avoir une présidentielle, c'est-à-dire s'il va y avoir une démission du président Macron, quoi. Est-ce que je reviens sur l'opération fiasco de Le Cornu ? Pas forcément, je crois qu'on a à peu près toutes les infos. Ah si, quand même. Si, parce que l'article du Parisien, là, il revient sur les éléments de langage, sur les mots utilisés par Sébastien Le Cornu hier sur le perron de Matignon pour expliquer pourquoi il avait démissionné. Et qu'est-ce qu'il fait ce faisant ? Ben, il critique les autres acteurs politiques en estimant qu'ils n'ont aucun sens des responsabilités et ils font passer justement leurs égos, leurs ambitions personnelles avant l'intérêt du pays. Ce qui rejoint un petit peu notre discours de ce matin. Merci Dakin pour ton soutien. Donc c'est intéressant. L'opération fiasco de Le Cornu. Donc le Parisien revient sur son allocution demain. Allocution d'hier, excusez-moi. Voilà. Je reprends les mots de Le Cornu. J'ai tenter de construire un cheminement. Salut Limon. Mais les conditions n'étaient plus remplies. Quelles conditions ? Peu de temps après, il vante à nouveau sa méthode face à son équipe démissionnaire comme s'il menait encore le combat. Mais jamais le mot échec n'est prononcé. Le Cornu préfère renvoyer la responsabilité aux postures et autres appétits partisans. Ça n'est pas sa faute. C'est la faute des autres acteurs politiques qui n'ont pas joué le jeu. Il faut toujours préférer son pays à son parti, conclut-il lors de son allocution. Qui vise-t-il ? À qui pense-t-il ? Les socialistes qui n'ont pas topé sur le budget. Les socialistes avaient dit on vous soutiendra si vous nous donnez des gages, notamment en matière fiscale, si vous acceptez notamment de taxer les ultra-riches en France. Et on a un Le Cornu qui a dit non, en tout cas non à la taxe Zucman. Donc les socialistes ont dit bon ben, dans ce cas-là, on s'en lave les mains. Voilà. Mais donc Le Cornu leur reproche. Et les Républicains qui ont failli quitter la coalition, furieux de la composition du gouvernement. L'enfer, ce serait donc les autres. Dans le camp présidentiel, l'argumentaire est jugé fallacieux. C'est surtout sa descente aux enfers, dit-on dans les proches de l'Élysée. Il était censé être malin. Hein, tout le monde le présentait comme un grand négociateur. Et ça a viré à l'opération fiasco. En un mois, il n'y a jamais eu de tactique. Même ses soutiens ne comprennent pas comment il en est arrivé à devoir démissionner. Et je me posais la même question hier. Je t'apprécie plutôt comme présentateur, mais tu as pris le boulard, mais tu deviens monsieur je sais tout. Merci l'Algérien Dudy pour ce message. Tu as deux doigts de passer MVP sur cette chaîne. Voilà. Je ne me l'explique toujours pas. Il s'est dit que sa méthode allait maturer et en fait ça a pourri. Quelle humiliation pour lui. C'est vrai que ça c'est un truc qu'on s'est dit hier ensemble. Rien n'obligeait Le Cornu à démissionner. Rien n'obligeait Le Cornu à démissionner. Retailleau disait qu'il allait quitter le gouvernement parce qu'il voulait pas de Bruno Le Maire. Ah bah tu mets quelqu'un d'autre à sa place. Tu tentes le coup. La gauche disait qu'elle préparait une motion de censure. Bah, attendons de voir la motion de censure. Encore faut-il la voter. Le RN prévoyait une motion de censure. Bah, pareil. Essayons. Il n'a pas essayé, le cornu. Il n'a pas essayé. Il a jeté l'éponge avant d'essayer. Alors ça j'ai pas compris. Et je suis pas le seul à avoir compris, parce que du côté des proches de l'Élysée, on dit un peu la même chose. Moi, j'ai l'impression qu'il a abandonné avant même d'essayer. Après, il s'est dit, c'est une mission impossible, je vais jamais y arriver, peut-être, hein. Voilà. Et un dossier qui est bien fait ce matin, le Parisien, qui explique à peu près bien la situation, de façon claire, je trouve, et l'Opinion, autre journal, le fait également. Voilà. Donc on va lire le dossier de l'Opinion, après on ira lire quelques éditos, quelques avis sur le sujet, voilà, avec des gens qui disent bah, la solution, c'est la démission du président. Voilà. La solution, c'est la dissolution. La solution, c'est la cohabitation. La solution, c'est un autre régime politique. Voilà, on lira tout ça. Mais d'abord, revenons un petit peu sur les faits avec l'Opinion. Alors, il y a un édito de Nicolas Bétou, qui est le patron de l'Opinion. Je le lis vite fait. Bon, c'est intéressant, Nicolas Bétou, par exemple, lui, bon, il propose sa solution. Au point de dérèglement où Emmanuel Macron a porté la situation politique, il ne reste en réalité qu'une alternative. Bon, rappelons que l'Opinion, c'est un journal libéral assez proche des entreprises, quoi. Donc, par exemple, qui trouve que le programme de gauche et de socialiste pour l'économie est très dangereux. C'est la ligne édito de Nicolas Bétou. Comme ça, pour que vous compreniez bien ce qui arrive. Il ne lui reste qu'une alternative. Soit il nomme un premier ministre de gauche, afin de purger cette option sur laquelle le Parti Socialiste fantasme depuis 15 mois, voilà. Et Nicolas Bétou qui ajoute, même si elle ne durait que quelques jours, cette option serait ravageuse, tant le programme du PS et de ses alliés est devenu extrémiste, donc ça c'est le regard de Nicolas Bétou sur le programme économique de la gauche. Donc Nicolas Bétou dit, bah, le président Macron il a qu'à essayer, le problème c'est que ce serait une catastrophe sur un plan économique. Voilà. Soit il dissout une nouvelle fois l'Assemblée pour faire émerger une majorité probablement autour du RN, voilà, le pire échec qui soit, selon Nicolas Bétou. Bon, ce qui est bien, Nicolas Bétou, il nous dit qu'en gros, il n'y a que des mauvaises solutions, ce qui est assez formidable. Mais on sent que l'Opinion pense que l'hypothèse la plus probable dans les prochains jours, c'est une dissolution de l'Assemblée nationale. Depuis le dernier épisode de cette mauvaise série, écrit François-Xavier Bourmeau et Corinne Laïc dans l'Opinion ce matin, les regards se tournent vers l'Élysée. Le chef de l'État tient la clé institutionnelle et politique de la crise inédite que traverse la France. Dissolution, demandent les uns, démission, exigent les autres, nomination, propose la gauche. Aujourd'hui, le PS propose plutôt, effectivement, un gouvernement de gauche. Celle d'un nouveau Premier ministre, socialiste cette fois. Il va falloir trancher, bah oui, ça c'est sûr. Plus que jamais, le temps joue contre lui. Après la chute de Bayrou, il avait appelé dès le lendemain le cornu à Matignon. Maintenant que ce dernier a démissionné, il faut trancher tout aussi vite. Bruno Le Maire offre-t-il une porte de sortie? Dans un message posté sur Internet, le ministre démissionnaire des Armées vient de proposer de démissionner. De se retirer du ministère des Armées. Le geste est à la fois baroque. Il quitte un poste qu'il va perdre de toute façon, parce que le gouvernement est démissionnaire, et élégant, puisqu'il est le problème, au regard de la droite, il propose une solution. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un trou de souris dans lequel le président Macron essaie de se glisser en proposant à Le Cornu de retenter le coup, sachant que maintenant Bruno Le Maire dit « bon, bah, si c'est moi le problème, je sors ». Dans un paysage qui ne manque pas d'innovation audacieuse, l'ancien ministre de l'économie et des finances propose une nouvelle innovation appuyée sur la touche Rewind, hein, comme le Rewind de Twitch. Je m'en vais pour que tu annules tout. Peut-on rembobiner le cours de l'histoire, passer l'éponge sur le passé? C'est ce que Emmanuel Macron a décidé de faire. Voilà, c'est ce que je disais à l'instant. les propos de Le Maire qui dit, bon, qui dit, bon, bah, si c'est moi le problème, je veux bien sortir de l'équation, font penser à Macron que peut-être que le cornu peut quand même y arriver. Le cornu qui dit, je veux bien essayer, mais de toute façon, je serai propre ministre, j'en peux plus de vos histoires. Waouh. Le cornu ne poursuivra pas sa mission au-delà. Premier ministre démissionnaire, il est Premier ministre démissionnaire, il restera même en cas de succès. En cas d'échec, ok, postulons, alors, on va avancer de la façon la plus pragmatique possible. Okay. Le cornu est en train d'essayer de former un gouvernement. Un gouvernement dont il ne serait pas Premier ministre, enfin, le truc n'a aucun sens, mais bon, ok, ok. Imaginons un instant qu'ils réussissent. Il y a un gouvernement de macronistes de centre-droit qui s'installe avec... Bon, ok. Et le truc fonctionne bon an, mal an. Ils arrivent à faire un budget. Le truc passe. Ou voté ou par 49-3. Le Cornu s'était engagé à ne pas utiliser le 49-3, mais le prochain Premier ministre pourrait l'utiliser. Voilà. Et là... il faudra attendre une motion de censure en cas de 49-3, de façon le vote il est immédiat, ou alors une motion de censure déposée par la gauche ou par le RN, et après reste à voir si cette motion de censure elle est votée. C'est pas si facile de trouver un nombre de voix suffisant pour voter une motion de censure. C'est là où Bayrou a fait une bêtise, parce que lui il avait pas attendu la motion de censure, il avait dit je vais demander la confiance à l'Assemblée, et il a eu besoin de beaucoup plus de voix, c'est pour ça qu'il a dégagé quoi. Donc il y a un monde où sur le papier ça peut tenir quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Voilà. Bon, ça, c'est la piste actuelle. En cas d'échec de ça, le président de la République prendra ses responsabilités, indique l'Élysée. La formule est volontairement floue. Ça veut dire quoi, prendre ses responsabilités? J'en sais rien. C'est pour demain, Astier, Tom, à midi, mon ami. On peut y voir une menace de dissolution. On peut y lire l'hypothèse d'un quatrième Premier ministre. Si une plateforme d'action et de stabilité se dégage, beaucoup peuvent s'en saisir, commente-t-on dans l'entourage du président. Ça s'appelle de la méthode couée. Hein. Emmanuel Macron songerait à des personnalités comme Jean-Louis Borloo ou Laurent Berger, voilà, ou J.L. Tommy, hein, le célèbre dirigeant d'équipe e-sport. C'est pas vrai, c'est une blague. C'est juste que ce matin, j'ai mis le tweet From Jobless to Job Life, pour ceux qui ont la ref. C'est aussi une manière de couper l'herbe sous le pied de Gabriel Attal, qui milite pour la désignation de négociateurs afin de trouver un budget, des députés pour le voter et un Premier ministre pour le porter. C'est quoi cette méthode Attal? Attal, il milite pour désigner des négociateurs qui trouveraient un budget, qui trouveraient des députés pour le voter et ensuite un Premier ministre pour le porter. Ok. Lundi, Gabriel Attal a remis cette proposition sur la table. Il faut changer de méthode. Ok. Ok. Quand je dis la méthode Coué, c'est le docteur Coué. Hein. C'est pas l'animateur de radio, là. C'est pas la méthode Coué sur un truc, là. Hein. Vous l'avez, hein. Non. Voilà. Donc si cette nouvelle tentative devrait échouer, donc nommer un nouveau Premier ministre, vous l'avez compris, le président serait amené à reconsidérer la dissolution, hein, la solution la plus radicale, un piège qui peut se refermer sur lui. Si elle produit une majorité claire, ce sera au profit de qui? Du Rassemblement National. Tu peux expliquer ce qu'est cette méthode? Non, j'ai rien compris. La méthode Attal, j'ai rien compris. Le négociateur, là, je c'est sûrement dans sa tête, c'est sûrement clair, j'ai pas compris. Peut-être qu'un jour je trouverai un article là-dessus, mais là je n'ai rien compris. Donc, la solution la plus probable, ce serait une victoire du RN. Voilà. Emmanuel Macron connaîtrait alors une cohabitation inédite. En vrai, ça nous ferait des revues de presse. Hein. Alors là, pour le content, là pour la matinée Étienne, là, le président Macron avec 2 années de cohabitation avec un gouvernement Rassemblement National, ah bah là, ça nous fait des papiers là. Ah bah là je suis en vue de presse du matin au soir, moi. Hein. H24. Hein. Absolu de cinéma, ouais. Ah ça, c'est sûr. Alors là, ouais. Ah oui, il va se passer des choses, là. Hein. Dans le cas contraire, elle reproduirait la situation actuelle. Cette confusion chronique risque de précipiter les appels à la démission, blablabla, on a bien compris, quoi. Voilà. Alors, est-ce que Emmanuel Macron sait aujourd'hui ce qu'il va faire? Moi, je suis pas dans sa tête, mais je pense qu'il sait pas. Je vous lis. Je vous lis, je vous lis. Empereur poil poitrine, tu as un meilleur skill en vue de presse qu'à Valo. Je suis Silver, hein. Enfin, j'étais Silver, hein. Donc, hein, alors, chut, Camembert, hein. Je vous lis. Alors, ça, c'est le pari de certains. Johan nous dit, moi je pense que c'est ce que souhaite Macron, la cohabitation avec le RN. Que ça peut peut-être décourager certains de voter pour le RN en 2027. Hein? C'est déjà ce qu'il souhaitait il y a un an, mais il pensait que la gauche allait arriver en tête. Ouais. Alors, certains disent que ça pourrait être le pari, c'est-à-dire que tu crées les conditions d'une cohabitation Macron-Rassemblement national. Comment tu fais ça? C'est compliqué de le faire aujourd'hui. Parce qu'en fait, le RN et la gauche se disputent le fait d'avoir gagné les dernières législatives et le RN n'a pas de majorité à l'Assemblée, donc ce serait un peu le bordel. Voilà. Tu fais une dissolution, le RN qui est hyper haut dans les sondages met un max de députés à l'Assemblée, bim, grosse majorité. Voilà. Tu vois, parce qu'il y a JG qui dit le RN ne viendra pas car ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale. D'où l'hypothèse de la dissolution. Voilà. Hop. Macron, RN, 2 ans. Et là, le parti de Macron et des opposants au RN, c'est que ces 2 années se passent très très mal. Hein. Le RN montre qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres et leur popularité s'écroule dans les sondages. Puisque c'est une constante de la cinquième et du pouvoir, c'est que quand un parti ou quelqu'un arrive au pouvoir, au fil des mois, confronté à la réalité de la gestion d'un pays, qui n'est pas si simple, eh bien, la popularité s'écroule. C'est le pari. Certains disent pari dangereux. Hein, parce que si c'est pas ce qui se passe. Si le RN s'en sort, ça fait 2 ans de cohabitation avec une réalité du pouvoir aux mains du RN, puisqu'en cas de cohabitation, le pouvoir, il est aux mains du gouvernement, hein, qui est soutenu par l'Assemblée, et non pas dans les mains du président. Vous avez 2 ans de pouvoir RN, plus 5 ans derrière avec la présidentielle. Ça fait 7. Il y a Nanou qui dit, non pardon, il y a Cadna qui dit ça s'appelle l'accélérationnisme et c'est toujours une très mauvaise idée. Parce que le RN c'est un parti d'opposition, c'est un parti qui n'a jamais été au pouvoir, qui a juste exercé des mandats locaux quoi. Donc cette inexpérience, eh bien c'est l'un des espoirs de ces opposants politiques quoi. Ok. Alors on continue avec quelques éditos, c'est-à-dire quelques articles où les journalistes donnent leur avis pour vous donner des éléments de pensée pour vous faire votre propre opinion là-dessus. À supposer qu'il soit facile de se faire une opinion sur ces sujets, c'est pas si évident. Les incapables, c'est la une de Libération ce matin. Et Paul Quignot, lui par exemple, il estime quoi? Il estime que la solution, c'est pas la dissolution, c'est pas une nouvelle présidentielle, la démission, c'est un comportement plus responsable des acteurs politiques qui, à ce jour, n'auraient pas suffisamment intégré les conséquences des dernières législatives. Je suis assez d'accord avec ça. Le chef de l'État a donc laissé entendre lundi qu'il prendrait, si besoin, ses responsabilités. Ça veut dire démission ou dissolution. Il existe une autre voie, écrit Paul Quignot. Dans Libération, que couvrent d'ailleurs les 2 jours donnés à Le Cornu actuellement pour discuter avec les partis politiques, que ces partis politiques prennent enfin leurs responsabilités. et comprennent enfin qu'actuellement personne au Parlement, personne dans l'Assemblée n'a les moyens de gouverner seul, hein, de majorité pour s'imposer. Ça s'appelle accepter des compromis. Voilà. On peut le dire crûment aussi, plutôt que d'arrêter d'accepter des compromis, c'est d'arrêter des conneries. Ou plus élégamment, penser à l'intérêt général, ce qui suppose de penser à l'intérêt des plus fragiles. On n'est pas très loin de l'analyse d'ailleurs de Le Cornu. Voilà. Donc la cohabitation, ou pas. En fait, les régimes parlementaires, on a des exemples autour de nous, par exemple l'Allemagne ou la Belgique, c'est... Alors après, il y a des régimes parlementaires avec des faits majoritaires, comme en Grande-Bretagne, c'est intéressant, mais ça dépend du mode de scrutin aussi. Peu importe. Dans certains pays parlementaires, le système politique et le mode de scrutin sont faits pour qu'il n'y ait pas, comme l'a connu en France, la France depuis pendant très longtemps, un seul parti qui gagne. Hein, voilà, ce qu'on appelle le fait majoritaire. Et donc, des pays où les partis sont toujours obligés de discuter entre eux pour former des coalitions. Aujourd'hui, nous avons une assemblée qui est éclatée, mais comme dans plein de pays à travers le monde. Hein, et donc, Libé dit, ben, faites ce que font tous ces pays concernés par des parlements, des chambres comme ça, où il n'y a pas de majorité absolue, ben, parlez-vous. Hein, discutez, essayez de, plutôt que d'insister sans arrêt sur ce qui vous oppose, essayez de vous entendre sur ce qui vous rassemble et formez des coalitions. Voilà. Voilà. C'est la proposition de libération. Alors, ça n'est pas une tradition politique en France, puisqu'on a des partis qui ont été biberonnés à la présidentielle. Hein. La présidentielle en France, c'est il y a un gars qui gagne et il gagne tout pendant 5 ans. Hein, il nomme le gouvernement, il a une majorité à l'Assemblée, puisque jusqu'ici, jusqu'à Macron, en gros, les hors période de cohabitation, les Français donnaient aux législatives une majorité au président pour qu'il puisse appliquer son programme, sa politique. Voilà. Et biberonné à ce fait majoritaire, biberonné au fait que l'élection principale dans notre système politique, c'est la présidentielle, les partis politiques français n'ont absolument pas cette tradition de la négociation avec les autres partis. Ils sont dans l'opposition permanente. Et on voit aujourd'hui, d'ailleurs, dans le comportement des hommes et des femmes politiques en France, que c'est encore le sentiment dominant. Là, chacun se... en tout cas, pour les principaux, ceux qui sont justement les plus dans les sondages, bah, en fait, ils sont très axés sur la présidentielle. Mais ce système ne marche plus. Merci Benji, merci Régloche, merci Dakin, merci Armand, merci Wolf. Alors deux possibilités, ou aux prochaines législatives, les Français font un retour vers le fait majoritaire, c'est-à-dire que les Français donnent à un camp, à un parti, une majorité. Je viens de parler du Rassemblement National. Si demain il y a des législatives et que les Français donnent une majorité absolue aux députés RN, bah on retrouve le fait majoritaire. On retrouve le fait majoritaire. Voilà. Et du coup, bah, le RN a une majorité pour mettre en place ce programme, quoi. Ça, c'est le retour au fait majoritaire. S'il y a une présidentielle demain, là je parle de législative, mais s'il y a une présidentielle demain avec un président ou une présidente RN, et que dans la foulée, les Français donnent une majorité aux députés RN, ben c'est le retour du fait majoritaire. On n'a plus un Parlement éclataxe, quoi. Mais dans l'hypothèse où ce fait non majoritaire se poursuit, eh bien c'est au parti d'en tirer les conclusions et de se comporter de façon responsable. C'est pour ça que c'est pas si facile à analyser, parce que le fait majoritaire, il peut revenir en vrai. Continuons. Donc voilà l'analyse de Libération. Il faut que les acteurs politiques deviennent plus responsables. L'analyse du Figaro, en tout cas dans la voix de Vincent Trémollet de Villers, dans son édito qui est ici sous vos yeux, c'est les élections. Le Figaro dit non, c'est trop le bordel. Voilà, le Figaro a quelque part exprime une forme de nostalgie pour le fait majoritaire où c'était où les choses étaient plus simples finalement. Et la fin de l'édito de Vincent Trémollet de Villers, la voici. Ce grand désordre, cette pénible confusion, nous ramène à celui qui, par la grâce de la cinquième, possède autant de pouvoir que de devoir, le chef de l'État. Lui seul a la clé, le retour aux urnes. Le retour aux urnes, c'est quoi? C'est ou la dissolution de l'Assemblée ou la présidentielle. En démocratie, c'est la plus mauvaise solution, à l'exception de tous les autres. Voilà. Mais je peux comprendre aussi. Le Figaro dit, ben, le paysage politique, il est illisible. Cette France est ingouvernable. Voilà. Essayons d'obtenir par les urnes un autre résultat. Quelque part, c'est espérer le retour aux faits majoritaires, quoi. Et puis la Croix, que dit la Croix? Je vous propose plusieurs analyses. Voilà. Voilà. Désormais, que faire? Je vais directement à la fin de l'édito qui est signé Lou Besmond de Senneville. Désormais, que faire? Les politiques doivent de toute urgence se ressaisir pour éviter le chaos. Le jeu politique, comme on l'appelle souvent, n'a rien d'un jeu. Quelques heures après la démission de l'éphémère Premier ministre, les réactions des bourses, la chute des actions des banques françaises, la hausse de la prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française sont venues nous rappeler les temps d'être responsables. Voilà, on est un petit peu sur la ligne de Libé, finalement, aux acteurs politiques de devenir responsables. Attendez, je lis le message. Alors, on a évoqué plein de possibilités, plein d'hypothèses, de solutions possibles à cette crise politique que nous vivons, et vous êtes plusieurs à écrire régulièrement, et pourquoi pas un changement de régime politique, et pourquoi pas une sixième république, hein, est-ce que de changer la règle du jeu, ça résout le problème? Alors moi je suis assez sceptique sur cette idée, et en même temps je doute de ma propre analyse. Parce que j'ai du mal à avoir des convictions sur ces sujets. Moi, mon constat initial, c'est pas un problème de règles du jeu, c'est un problème de comportement des acteurs. On a des acteurs qui sont irresponsables, qui pensent plus à leurs ambitions personnelles, à leur ego, et à une éventuelle élection présidentielle qui structure toute la vie politique de notre pays. Et aujourd'hui, ça provoque des effets délétères. Voilà. Donc, moi, j'appelle un changement de comportement des acteurs pour s'adapter au vote des Français. Mais, ce matin, j'ai lu une analyse qui me semblait assez intéressante, qu'on peut lire ici dans La Croix, qui est que, finalement, on est victime ici des effets de la présidentielle sur la vie politique, et que peut-être la solution, elle est de supprimer la présidentielle. Et en lisant cet article ce matin, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Essayons de comprendre. L'élection présidentielle au cœur des calculs politiques. Ok. Lisons. Sur le banc des accusés, à tort ou à raison, le régime semi-présidentiel, qu'on peut appeler présidentialiste, de la 5e, la prééminence du président de la République et de l'élection présidentielle, c'est ce qu'a voulu le constituant en 1958 et notamment le général de Gaulle. Autrement dit, l'obsession présidentielle des acteurs politiques. Parce que c'est le souhait de Gaulle en 58 et du constituant, celui qui a pensé la 5e, des gens qui l'ont accompagné, les constitutionnalistes. On sortait de plusieurs décennies d'instabilité politique en France, la 3e, la 4e République, c'était des régimes parlementaires d'ailleurs, voilà, avec le règne des partis, hein, avec des majorités qui se faisaient, qui se défaisaient, parce que le régime parlementaire, il n'a pas que des vertus aussi, et il crée parfois beaucoup d'instabilité. Pourquoi? Le même problème. Même problème qui cause les mêmes effets, c'est-à-dire une irresponsabilité des acteurs de la vie politique. Voilà. Donc, en réaction à ces excès, en 58, le général de Gaulle propose un régime qui va donner une stabilité politique à la France, c'est-à-dire avec un exécutif en place pour plusieurs années, voilà, qui va pouvoir appliquer le programme pour lequel il a été élu sans que la majorité change tous les 4 matins. Quoi. Ouais. Sous la 5e, la présidentielle est donc considérée comme l'élection reine que les législatives ne font que confirmer lors d'une alternance. En 81, les soutiens de François Mitterrand ont obtenu une majorité absolue. Même chose pour les soutiens d'Emmanuel Macron en 2017. Mais cette loi, puis on peut le dire pour toutes les présidentielles précédentes d'ailleurs, hein, sauf pour voilà, les périodes de cohabitation, mais cette logique s'est grippée après une réélection, bah d'ailleurs Lacroix en parle, que ce soit pour Mitterrand en 88 ou pour Macron en 2022. Et surtout depuis 2024, après la dissolution de l'Assemblée, le président de la République a attendu une clarification et il en a résulté davantage de confusion. Donc c'est le fait majoritaire qui a disparu. La fin de la bipolarisation. Entre la gauche et la droite a redessiné un paysage politique éclaté avec deux nouveaux acteurs à vocation majoritaire, le centre et l'extrême droite. Donc, gauche, droite, comme avant, plus centre, macroniste, et l'extrême droite. On a la carrosserie du régime présidentiel, mais il n'y a plus de moteur, ou en tout cas plus d'essence dans le moteur, explique un constitutionnaliste qui s'appelle Bruno Daugeron. Voilà. Nous sommes, avait dit Le Cornu également, dans le moment le plus parlementaire de la 5e. Donc on a un régime qui est le régime présidentialiste de la 5e, mais qui ne fonctionne plus parce que l'équation est l'équation d'un régime parlementaire. Okay, c'est comme si, en gros, on essaie de faire entrer un triangle dans un carré, quoi. La France se retrouve donc dans la situation de la plupart des régimes parlementaires, comme lors de la 3e et de la 4e que j'évoquais tout à l'heure, hein, et comme c'est souvent le cas dans plein de pays à l'étranger, voilà. Alors, pas aux États-Unis, hein, le pays aux États-Unis, alors aux États-Unis, c'est pas un régime présidentialiste, c'est un régime présidentiel, encore un autre régime politique. Mais pour le coup, même si parfois, par exemple, le président Trump, là, il a besoin, au-delà de la majorité qu'il a au Congrès, des voix de l'opposition sur certains sujets, parce qu'il y a l'histoire de majorité qualifiée. Bon, ben, aux États-Unis, il y a une alternance républicain-démocrate qui est assez claire, quoi. Qui ressemble à l'ancienne alternance gauche-droite qu'on avait en France, quoi. On n'est évidemment pas du tout sur un régime parlementaire. Mais nous, on se retrouve dans ce système-là, hein, c'est-à-dire qu'on n'a aucun bloc politique qui n'atteint seul la majorité absolue des sièges nécessaires pour diriger, pour légiférer. Mais le problème, c'est que dans ces régimes parlementaires que j'évoque, l'essentiel du pouvoir est entre les mains du chef du gouvernement et non du chef de l'État. Hein? Tandis que l'élection reine n'est pas l'élection présidentielle, mais l'élection parlementaire, la législative. Merci Loki 13. En tel cas, la solution consiste à négocier entre les forces politiques une majorité gouvernementale. Voilà, ce qui donne des configurations qui paraissent totalement inimaginables en France, comme une grande coalition allant de la droite modérée à la gauche modérée. Alors, en France, aujourd'hui, c'est considéré comme impossible. Voilà. C'est pourtant ce qui se pratique au Parlement européen, où des groupes auxquels appartiennent le PS, les macronistes et LR sont habitués au compromis. Voilà. Donc, nous, on ne sait pas le faire en France, mais les députés français au Parlement européen arrivent à le faire. À l'Assemblée, malgré quelques ouvertures sous le gouvernement de Bayrou, ça n'a pas été possible. Le PS a refusé de s'engager dans un accord de non-censure, un temps envisagé. La gauche modérée subit, explique Lacroix, la pression électorale et idéologique de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, au point que dans les manifestations, ses dirigeants se font huer au cri de PS collabo, où tout le monde déteste le PS. Le Cornu a semblé en prendre acte, puisque contrairement aux équipes de ses prédécesseurs, plus aucune personnalité n'incarnait une main tendue au centre-gauche. Hein? Dans le gouvernement de Le Cornu, il n'y avait pas de personnalité de gauche, quoi. Il n'y avait pas de personnalité socialiste. Seule la droite, qui représente 8% des députés seulement, a accepté en septembre 2024 de s'allier avec le centre, 29%, afin de former une coalition. C'est ce qu'on appelle le socle commun. Donc là, il y a une alliance. Voilà. C'est la fissure de cet alliage que je viens de décrire entre la droite et le centre, qui est à l'origine de la démission de Le Cornu aujourd'hui. La parole au constitutionnaliste Bruno Daugeron, la présidentielle, demeure dans toutes les têtes aujourd'hui. La Ve République s'étant structurée autour d'elle depuis plus de 60 ans, on a des habitudes qui sont difficiles à changer. Depuis la dissolution de juin 2024, l'actualité montre combien la culture du compromis parlementaire s'impose difficilement à des esprits qui, quel que soit leur bord, demeurent tous mentalement structurés et politiquement obsédés par l'élection présidentielle, perçue comme l'issue, perçue comme la solution, alors que selon Bruno Daugeron, elle est le problème. Alors ça, c'est postuler que l'élection présidentielle serait la raison de la crise politique que nous vivons aujourd'hui. Et au risque de vous déplaire, je pense que c'est pas si simple. Parce qu'encore une fois, si demain on passait à un régime full parlementaire, sans présidentiel, tout dépendrait à nouveau. Pardon, hein. Moi je préfère parfois ne pas être catégorique et poser des questions plutôt que donner des réponses toutes faites. Imaginons qu'on passe demain à un régime parlementaire, on supprime la figure du président, on supprime la présidentielle, puisque selon certains, c'est la source du problème. Ok, régime parlementaire, législative. Donc ça veut dire que les partis doivent se parler pour former des coalitions. Voilà, et on en revient à quoi? À la responsabilité des acteurs de la vie politique. Ces acteurs qui aujourd'hui se comportent de façon irresponsable. Donc c'est pas une question de règles du jeu, c'est une fonction de comportement des acteurs politiques. Et où, moi j'estime qu'aujourd'hui, rien n'empêche à ces acteurs de se comporter de façon responsable dans les règles du jeu actuelles et de former une coalition qui puisse faire tourner le système, quoi. Alors oui, tu as raison à Kakuama, mais il n'y aurait plus un mec au-dessus qui déséquilibre et force les alliances. Le mec au-dessus dont tu parles, c'est l'actuel président Macron. C'est vrai. Voilà. Voilà pour cette énorme page de 1h20, 1h20 que nous avons consacrée ce matin à la crise politique en France. Voilà. On peut tourner le problème dans tous les sens. Je pense qu'on a dit l'essentiel ce matin. Mais évidemment, ce qui est formidable, c'est que d'ici demain, il va se passer plein de choses incroyables que nous commenterons également. J'ai pas fini, du coup, on va se changer un petit peu les idées avec d'autres sujets. Mais je vous lis pour terminer. Je vous lis. Est-ce que les règles du jeu de la cinquième ne favorisent pas les comportements politiques actuels? Si, monsieur Grive, c'est pas faux. Merci, Pamphile. Comment fonctionne le régime allemand? Est-ce qu'on pourrait en prendre exemple? Le régime allemand, c'est un régime parlementaire. Mais justement, il y a une coalition au pouvoir en ce moment en Allemagne. Alors attends, de mémoire, sociodémocrate, plus. Donc c'est le PSD, plus écologiste, plus libéraux. Voilà. Donc on a des sociodémocrates, des écologistes et des libéraux qui se sont mis d'accord il y a quelques temps pour un programme de gouvernement. Ils ont mis des mois à s'accorder. Et aujourd'hui, ils se déchirent, ils sont super divisés. Et je crois que si je dis pas de bêtises, qu'il y a de nouvelles élections qui arrivent en Allemagne. Mais aujourd'hui, cette coalition en Allemagne, elle est totalement divisée. C'est un peu le bordel. Donc vous voyez, le régime parlementaire n'est pas forcément une solution, quoi. Encore une fois, c'est le comportement des acteurs, finalement, qui fait que ça fonctionne ou pas, quoi. Alors parfois je vois les messages en mode que je ne commande pas, hein. On va pas lire toutes les. Oui, une bonne grosse dictature, c'est ça qu'il nous faudrait. Ou qu'est-ce que tu penses du retour à la monarchie? Bah oui, un mec qui dirige un pays juste parce qu'il est le fils de. C'est assez intéressant comme idée. Et là on rappellera le mot de Churchill, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est Churchill. La démocratie est le pire système politique, je crois, un truc comme ça, à l'exception de tous les autres. Je crois que c'était une phrase un petit peu comme ça. Tu arrives à quasiment tous les dans le chat? Oui, à peu près, oui. Après, il y a mon cerveau parfois qui volontairement supprime des messages, quoi. Si, Chita, j'ai vu ton message. Babar. Bah pourquoi tu m'as pas répondu? Non, j'ai dit que je lisais tous les messages. J'ai pas dit que je répondais à tous les messages. Dis donc. On va écouter un petit peu ou pas? Tiens, juste pour rigoler, on va lire les messages de Babar. Tu penses quoi d'un parlement tiré au sort? Tu vas réfléchir. C'est toi, ce sera toi qui sera élu député. Hein? Je vais y penser. Bon, hey, on va changer de sujet un petit peu, hein, parce qu'il y en a marre. Hein. Bon, on va reparler demain matin. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Un peu de chat GPT. Là. On va revenir finalement les articles que je voulais vous lire hier, mais que j'ai pas pu vous lire. Et qui n'était pas inintéressant parce qu'il n'y a pas que la politique dans la vie, il ne faut pas déconner. Il y a aussi ChatGPT. Voilà. Et moi, je n'utilise pas ces trucs-là pour l'instant. Et je sens que je suis en train de prendre un petit coup de vieux. Alors, on est à 1h45. Je mets le TC, hop, pour le replay, pour le podcast, sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, le ChatGPT dans nos vies, c'est un article du Monde que j'ai trouvé assez intéressant. Hop, la petite flèche. Pour que les gens qui nous rejoignent sachent où on y est. Sommaire. Non, ce sera toi qui. Excusez-moi. Député. Voilà, hop. Ciao, GPT. Let's go. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ChatGPT, vous dites comme vous voulez, on s'en fiche, hein, est entré dans nos vies? Famille, logement, cuisine. Santé, sport, 73% des requêtes adressées aux robots conversationnels, vedettes, ont trait au quotidien. Voilà. Il y a des gens qui, bon, mon épouse par exemple, il y a des gens qui utilisent ChatGPT vraiment dans leur quotidien. Ce que moi je ne fais pas encore, peut-être que je le ferai demain, quoi. Hier, je bossais sur l'émission de ce soir-là, le bingo, et à un moment, je cherchais. Des précisions sur une question liée à Star Wars, parce qu'il y aura beaucoup de questions de pop culture. Ce soir, dans notre jeu là, et à un moment, j'arrivais pas à trouver. Il y avait plein de sources qui étaient un peu contradictoires, et j'ai fait une recherche via ChatGPT sur une question très précise sur Star Wars, et du coup, ça m'a apporté plus de précision. Donc, j'avoue que c'est parfois assez intéressant. Lisons. S'il reste sur sa trajectoire actuelle, ChatGPT deviendra le plus gros site web du monde. Cette prophétie, formulée par Sam Altman lors d'une conférence organisée le 9 septembre dernier par le fonds Khosla Ventures, reflète l'ambition du dirigeant d'OpenAI, mais aussi une vraie tendance. Lancé en novembre 2022, son désormais célèbre assistant conversationnel est déjà le cinquième site le plus visité au monde. C'est ouf. Selon SimilarWeb, avec 2,5 milliards de messages par jour, 29 000 par seconde, il symbolise la pénétration croissante des services d'IA dans notre quotidien. ChatGPT touche environ déjà 10% de la population adulte mondiale, selon OpenAI, qui revendique 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires, soit près de 4 fois plus qu'un an plus tôt. Les chiffres sont juste impressionnants. C'est le développement technologique le plus rapide de l'histoire, estime même la start-up californienne. Elle n'est pas la seule. De nombreux autres géants. Merci Yano, merci Albroken, merci Gotaga de chez Wish. Merci Irisvel. Salut Lucie. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci Allo pour le raid que j'ai pas remercié tout à l'heure. Merci, merci Ravouille. Elle n'est pas la seule. De nombreux autres géants du numérique poussent aussi leurs assistants conversationnels et les intègrent aux services en ligne les plus utilisés. Google revendique 450 millions d'utilisateurs mensuels pour Gemini et Meta, près d'un milliard pour Meta AI, développé sur Insta, WhatsApp et Facebook, l'IA d'Elon Musk, Grok, intégré à X, mais aussi Perplexity, Claude, le chinois DeepSeek ou encore le français Le Chat, Mistral, c'est Le Chat, c'est ça, hein, complète le tableau de cette nouvelle offre foisonnante de chatbots. L'entrée de l'IA dans la vie des utilisateurs pourrait se renforcer à l'avenir, parce que les 18-25 ans représentent à eux seuls 46% du total des messages envoyés à ChatGPT. Les 18-25 ans représentent 46% du total des messages. Voilà. C'est peut-être pour ça que moi, je l'utilise assez peu, quoi. Voilà. 22% des moins de 13 ans en France utilisent déjà un chatbot plusieurs fois par mois. 22% des moins de 13 ans. Ouais. Les femmes représenteraient désormais 52% des utilisateurs de ChatGPT contre seulement 20% au début du service. Ok. Si les entreprises de la tech et les médias mettent souvent en avant les promesses de l'IA au travail, en particulier d'augmenter la productivité, hein, ce sont en fait les usages non professionnels, c'est le constat de cet article, hein, qui est intéressant, qui monte en puissance dans l'assistant d'OpenAI. Il représente 73% de l'usage en juin contre seulement 53% un an plus tôt selon l'entreprise. Donc en fait, c'est dans la vie du quotidien que ChatGPT est le plus utilisé aujourd'hui. Se dessine donc une IA du quotidien où le chatbot joue un rôle aux confins de l'assistant personnel, du moteur de recherche et de l'outil de création de contenu. Selon OpenAI, dans 28% des cas, les utilisateurs de ChatGPT sollicitent des conseils pratiques, notamment en matière d'éducation. Dans 24%, ils cherchent des informations sur des personnes, des événements, des produits, des recettes de cuisine. Et dans 23,9%, ils cherchent à écrire un texte, un email, un rapport ou tout autre document, mais aussi à le faire améliorer, à le faire résumer ou à le traduire. Le Monde, donc, elle est à la rencontre de celles et ceux qui commencent à faire de ces outils un objet de tous les jours. Voilà. Tous ces usages de l'IA posent des questions vertigineuses sur l'attachement émotionnel des utilisateurs à ses compagnons virtuels. Parce que parfois, il y a une espèce de faux lien qui se crée entre le robot conversationnel et l'utilisateur. Le respect de la vie privée, le rapport à l'éducation et à l'information, voilà. Les risques d'addiction et l'impact climatique des data centers, elle est de plus en plus gros et qui permettent à l'IA de répondre aux enquêtes. Il y a des études là, qui commencent à pop sur la consommation d'énergie exponentielle des IA dans les prochaines années et qui nous expliquent qu'on ne va pas pouvoir suivre et que ça va poser des problèmes. Pour respecter nos objectifs de réduction d'émissions de CO2, voilà, ou encore de pouvoir flécher les énergies vers certaines utilisations, quoi. On en a déjà parlé ici. Le Monde est allé à la rencontre de plein de personnes, voilà, qui ont témoigné un petit peu de ce qu'est devenu ChatGPT dans leur quotidien, quoi. Là, on a par exemple une maman, Marie-Emmanuelle, qui a une fille de 2 ans et demi, voilà, qui ne savait plus, c'est une maman célibataire, chercheuse, qui ne savait plus vers qui se tourner pour discuter d'un incident. Hein, le matin, sa petite fille avait refusé d'enfiler ses chaussettes et ses chaussures. Et puis sa maman, à bout de nerfs, l'avait menacée de la priver de dessins animés. Donc elle donne à Copilot toutes les composantes de la situation et lui demande un conseil. Donc elle demande un conseil à l'IA. Voilà. Et l'IA m'informe que c'est surtout pas le moment de punir, hein, ni de lever la voix dans ce que la maman avait fait. Elle m'explique que c'est un passage difficile pour son enfant et qu'elle exprime, ce faisant, donc refusant de mettre ses chaussettes et ses chaussures, un malaise émotionnel. Elle me conseille de la rassurer. Le lendemain, la jeune fille jette sa cuillère pleine de pâtes en criant. Voilà. Sa maman lui demande « Est-ce que c'est difficile en ce moment ?» Voilà. L'enfant hoche la tête, s'accroche à son cou, pleure, un gros câlin qui calme la petite et convainc sa mère de l'utilité de Copilot. Bon, là, la maman a demandé un conseil à l'IA, elle l'a appliqué et ça a fonctionné. Voilà. Ça ne marche pas toujours. Hein. Une étude publiée en juin montre que les parents font partie des utilisateurs les plus assidus de l'IA. 79% des parents d'enfants de moins de 18 ans s'en servent. 29% disent y avoir recours chaque jour. C'est assez amusant. Qui font-ils ? 34% une aide logistique pour la vie de famille. Hein ? 28% cherchent des informations sur les questions parentales. Hmm ? À Füssen en Allemagne, Marguerite, conseillère dans la tech de 40 ans, a eu aussi ce réflexe IA. Voilà. Un soir, son mari et elle ont décidé de demander de l'aide à ChatGPT. À 8 mois, leur troisième enfant se réveillait toutes les heures pour téter. Ça arrive des enfants... Qui se réveille beaucoup la nuit comme ça. Voilà. Marguerite a défini son objectif à ChatGPT, réduire à 2 TT au maximum par nuit. Pour penser un petit peu au sommeil des parents. Voilà. Donc ChatGPT lui propose un plan de bataille structuré. Marguerite, très impressionnée, l'applique, sauf que ça n'a pas marché. Hein, la théorie était très belle, mais au bout de 2 semaines, mon garçon ne dormait pas mieux. Marguerite a alors acheté un livre, Je ne dors pas, qui était écrit par des pédopsychiatres, je pense, Auré Calais et Clémence Prompsy. Et là, tout a changé. À 11 mois, le garçon ne se réveille plus qu'une fois par nuit et Marguerite suit davantage son intelligence sociale qu'artificielle. C'est pas magique non plus, comme dit Sylvain. Exactement. Voilà. Alors ça, c'est pour les parents. Voilà. Bon, moi, à ce jour, je n'ai pas encore demandé de conseils à des IA pour élever mes enfants. En revanche, mon épouse, elle est très... Elle a lu énormément de... C'est pas une grande lectrice, mais elle a lu énormément de livres en devenant maman sur les méthodes d'éducation, sur... voilà. Donc elle est très... Elle s'est beaucoup renseignée là-dessus, et j'avoue que c'est... Moi, elle m'a beaucoup apporté par ses lectures, parce qu'on a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Donc on est allé chercher des informations plutôt dans des bouquins que sur l'IA. Mais après tout, demander une IA, c'est aussi essayer de trouver des outils et des solutions. Après, c'est, je pense qu'il faut avoir l'intelligence d'analyser par soi-même ces propositions faites par des livres, par des éducateurs, ça peut être par des amis, par des familles ou par une IA. On peut peut-être se dire ce matin que l'IA n'est qu'une source de conseil, une proposition, qui n'est en rien une solution unique et 100% valable. Mais que c'est un outil comme un autre. Et après tout, pourquoi pas l'utiliser, quoi. À condition de ne pas oublier que c'est un outil. Et qu'un livre sur l'éducation, ça n'est qu'un livre sur l'éducation. Et ça n'est pas une recette. Je parle tout haut. Enfin, je parle tout, je pense tout haut. En matière de scolaire aussi, ChatGPT est en train de s'installer. Là, on a par exemple Gabriel, 18 ans, qui est en train de réviser. Voilà, il s'applique à bâtir le meilleur plan pour un sujet de dissertation déniché en ligne, l'État et la Révolution. Mais 15 minutes plus tard, Gabriel craque et il demande à ChatGPT, quoi. En moins de 3 ans, les chatbots ont conquis les amphis, brouillant la frontière entre ce qui est noirci par la main et ce qui est généré par un algorithme, rédiger un texte, corriger une faute, traduire un passage. Alors ça, c'est une vraie révolution. 83% des étudiants affirment utiliser ces outils pour leurs études et près de la moitié d'entre eux pour réviser d'après un sondage. Bon, ça, pour le coup, c'est une révolution que je n'ai pas connue. À mon époque, on avait à peine l'électricité. Nel, 18 ans, bachelier parisien, assume sa dépendance à ChatGPT. Dans son ancien lycée du 17e, on trace-t-il, tout le monde consultait l'outil comme un professeur particulier. On n'avait pas le temps de tout réviser, on voulait aussi une vie sociale, donc on était en mode, on l'utilise parce que c'est plus simple. Voilà. Pour résumer articles et documents, pour synthétiser ses cours, pour faire ses devoirs, il avait même pris l'abonnement plus. Qui offrait des fonctionnalités élargies et utilisation sans limite. Voilà. On interagit comme avec un humain, c'est rapide, ça nous plaît, c'est notre Google. Pour Camille, étudiante en master direction artistique à l'école supérieure de publicité, ouvrir l'outil est devenu un réflexe. Voilà. J'étais très forte pourtant pour proposer des concepts, pour inventer des idées, et puis je me suis dit, si je consulte pas une IA, je n'y arrive plus. Voilà. C'est intéressant. Alors, elle s'en inquiète un peu pour regagner son autonomie de pensée. Camille a réduit progressivement sa consommation de ChatGPT, enfin d'IA, réussissant petit à petit à retrouver sa créativité. Mais l'assistant reste à portée de main. Voilà. Les professeurs, qui sont parfois inquiets de l'irruption de l'IA utilisée par les élèves, l'utilisent parfois aussi. André Ledly, qui enseigne la philosophie au lycée en classe prépa, j'essaie de refaire mes cours avec lui, de chercher des exemples ou des références. En fait, c'est d'abord un outil pour compléter et améliorer ce que j'ai déjà. Je vous lis un petit peu, puis après on continue ces témoignages qui sont en fait des témoignages de Français et de Françaises, hein, qui ne sont pas des analyses, c'est juste des Français et des Françaises qui disent comment ils utilisent l'IA aujourd'hui, quoi. Bientôt, un gouvernement demandé, choisi par l'IA. On pourrait faire la. Tiens, on devrait demander la. Je ne connais rien, moi. ChatGPT. Ok. Je vais mettre bonjour, faut dire bonjour, je sais pas. Bonjour. Peux-tu me donner une solution? À la crise politique. Aujourd'hui, en France. Je ne sais pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Ok. Ok? Quoi? Il veut pas? Pourquoi il n'a pas marché? Oh, un boomer, moi. Ah, il y a Joe qui arrive. Salut Joe, ça va? Bon, il a fait tomber ses clés. Ah, c'est mes clés qui sont dans la serrure. Je suis en train d'essayer de chat GPT, c'est dur. Hein.
Ah ouais?
Le truc de jeune, ça je comprends rien.
T'es en train d'essayer de chat GPT, le jeune?
Ouais, je demande à chat GPT une solution à la crise politique. Mais je peux pas être sur le bon cycle. Tu vas bien?
Bah ouais. Ah, c'est cool là, on va s'amuser.
Donc avec Joe, on... je vous rappelle qu'avec Joe, on a bossé des mois. Hein.
Un mois. On a eu un mois en fait.
Ne raconte pas les coulisses. On a bossé des mois.
On a bossé au moins 6 mois dessus.
C'est vrai. Non, ça m'a paru long, moi. C'est vachement de boulot, quoi.
Ça m'a paru plus long aussi.
Rendez-vous à 20h ce soir. Alors, est-ce que ça marche, mon truc, là? Alors. Ah, faut que je me connecte. Ah, je t'ai pas connecté. Ah, il me propose un abonnement direct. Eh ben. Ah, mais pourquoi il me propose un abonnement? Ah, c'est parce que c'est le 5, c'est la dernière version. Attends, attends, attends. Ah ouais, la tunasse tout de suite. Ok. Ah, ça y est, ça marche. Bonjour. Peux-tu me proposer une solution à la crise politique en France? Ok. Bonjour. La crise politique en France peut désigner différentes choses selon le contexte. Perte de confiance dans l'institution, montée des extrêmes, fractures sociales, blocage institutionnel. Pour te proposer une solution crédible, je vais poser quelques bases générales, puis te présenter une approche en plusieurs volets qui pourrait contribuer à sortir de cette crise. N'hésite pas à préciser si tu fais référence à une situation ou une période politique particulière. C'est pas mal. Alors on va être plus précis, on va être plus précis. Ok. Attendez. Ok. Alors. Samuel Etienne. On va être plus précis. Oui, ça c'est mon masque de catch. Joe est surpris par les trucs qu'on trouve dans ce studio, mais... Oui, bah, c'est bon. Attends. C'est mon masque de catch, il n'y a pas de... Tout le monde a un masque de catch chez... Tout le monde a un masque de catch chez lui. Enfin, je pense. Non ?
Allez.
Dans la... Moi, je me promène souvent dans le quartier avec mon masque. Ça fait rire les enfants.
Puis quand tu résous la crise, c'est très bien d'avoir un masque de casque.
Ouais. Allô, Chador. Et donc, Samuel Etienne, allons tout de suite à ce qui nous intéresse. Hein. Ferait-il un bon président? Un bon président de la République?
C'est celui-là le deuxième. Hein.
Ça, c'est le AMD.
C'est ça
celui-là? Ouais, il y a le AMD.
Et l'autre, c'est que j'ai sorti.
Ouais, ouais. Et le carton.
Ouais, il est là-bas.
Ouais, t'as vu, il est là. Ouais. On fait du trafic de PC ici.
On fait du rangement.
On fait du trafic de PC ici. Je sais pas combien il y a de PC dans ce studio. Voilà, et on fait du trafic de PC. Il y a deux PC là qui sortent. Là. En 2000. En France. En 2027. Voilà. La question posée à ChatGPT, c'est Samuel Etienne fera-t-il un bon président de la République en France en 2027? Let's go. Let's go. La réponse est... Alors, recherche sur le web. C'est une excellente question. Pour pouvoir répondre de façon pertinente, il faut regarder les qualités, les lacunes, le contexte politique. Est-ce que les Français attendent d'un président en 2027? Voici une analyse suivie d'une opinion personnelle. Tu me dis si tu veux qu'on le fasse dans un autre angle, par exemple. Ok. Okay. Qui est Samuel Etienne, ce qu'on sait? D'après les informations disponibles, Samuel Etienne est journaliste, animateur, connu notamment pour Question pour un champion, la matinale sur France Info, etc.
Ok.
Ok. Il est très actif sur Twitch, ce qui lui donne une visibilité importante, particulièrement auprès des jeunes.
Waouh. Vous êtes jeune? Vous êtes jeune, vous?
Ou des publics qui consomment Internet streaming. Parce qu'il y a aussi des gens moins jeunes qui consomment ces contenus, bien sûr. Il a déjà évoqué l'idée de se présenter à la présidentielle. Ah ouais, mais ils savent des trucs. Il a déjà évoqué l'idée de se présenter à la présidentielle, au moins comme objectif de don lors du The Event, mais il dit aussi y voir des inconvénients liés à la vie politique, violence du débat, réseaux sociaux, etc. Putain, la vache! Il sait tout, ChatGPT. Il ne semble pas avoir à ce jour de parcours politique ou de mandat électif. Voilà. C'est un journaliste animateur, ça n'est pas un élu.
Waouh.
Voilà ce qu'il pourra avoir pour lui. Voilà ce qu'il pourra avoir pour lui. Authenticité, proximité. Grâce à Twitch et au format moins institutionnel, Étienne est perçu comme plus proche, moins politiquement calibré, ce qui peut séduire les électeurs fatigués de la vie politique classique. Son style pourrait rassurer ceux qui veulent de la transparence, de la nouveauté, voire une communication plus directe. Let's go. Image et crédibilité médiatique. Il est déjà connu, respecté comme journaliste et animateur, ce qui donne de la crédibilité. Beaucoup connaissent sa voix, son visage, son travail. Bon, ChatGPT ne le dit pas, mais en gros, je suis un beau gosse, quoi. Troisième point, bonne insertion dans les nouveaux médias. Le fait de travailler bien sur Internet, les réseaux, Twitch, etc. pourrait le rendre plus apte à toucher les publics jeunes ou ceux qui ne s'intéressent pas aux médias traditionnels. Quatrième point positif, neutralité politique si maintenue, ne pas être lié à un parti fort ou à des scandales politiques pourrait être un avantage, il pourrait apparaître comme une alternative hors système. Point négatif, manque d'expérience politique et de leadership institutionnel. Voilà. Gérer un État, prendre des décisions complexes, faire des arbitrages, composer avec les partis, est très différent d'animer une émission. L'absence de mandat ou de rôle exécutif expose à des critiques. Connaît-il vraiment les rouages de l'État ? Bon, pour le coup, c'est un sujet que je suis depuis quand même 30 ans. Mais bon. Programme crédibilité sur les politiques publiques. Pour convaincre, il lui faudrait un projet clair, crédible, avec des experts, des idées précises sur l'économie, la diplomatie, la sécurité. Son empathie, sa popularité ne suffisent pas pour assumer ses dossiers. D'où la co-construction sur Internet de notre programme pour la présidentielle. Let's go. Adversité politique et clivage. Le jeu politique français est exigeant, parfois dur, parti, alliance, opposition, pression, cela suppose souvent de faire des compromis, ce qu'une personnalité pure ou intègre pourrait refuser, mais cela peut coûter au plan stratégique. Ah. Visibilité versus légitimité, quatrième point, être populaire sur Twitch ou à la télé, ça n'est pas la même chose que d'être perçu comme légitime comme président. Hein. Certains électeurs pourraient questionner son sérieux ou sa préparation. J'ai passé toute ma soirée sur Valo à préparer l'élection, je ne vois vraiment pas ce que les gens disent, quoi. 5, enfin, risque de polarisation slash attaque. Toute figure médiatique exposée sera attaquée. Son usage de médias libérés comme Twitch pourrait lui attirer beaucoup de critiques, certaines justifiées comme d'autres moins, ce qui peut devenir un terrain glissant, discours, débat, polémique. Bon, ça, on s'y attend, quoi. Mon opinion, à la fin, t'as mon opinion de ChatGPT, mesdames et messieurs. Personnellement, je pense que Samuel Etienne pourrait être une candidature intéressante, novatrice, rafraîchissante, capable de bousculer le système, mais je doute qu'il soit prêt en 2027 à assumer pleinement les responsabilités d'un président, sauf s'il s'engage sérieusement dans la préparation politique entre maintenant et 2027. Programme, équipe, mandat, locaux ou autre. Ben ça, on a déjà tout prévu, nous. Il est fort. Hein. Il est fort. Et tout ça a été pondu en une seconde par le site. Tout ça a été pondu par une seconde par le site. Je n'ai jamais posé cette question à ChatGPT auparavant. S'il décidait de se présenter, je le verrais plus comme un candidat outsider crédible plutôt qu'un favori pour gagner dès le premier tour. Il pourrait perturber le jeu, forcer des débats nouveaux, peut-être modifier le discours public, mais pour vraiment gagner, il devra surmonter les obstacles que j'ai cités. Et il propose à la fin, si tu veux, je peux te faire une simulation. Ce que pourrait être sa campagne, ses points forts, les risques, les chances de faire un score significatif. Le gars, il veut me proposer des sondages, quoi. Il va me dire, bah ouais, tu peux faire tant. C'est ouf, hein. Voilà. Voilà. Bon, bah, ouais, le truc est assez impressionnant, j'avoue. Ok, je vais me mettre à l'outil. Ok. Non, c'est assez drôle. En vrai, c'est assez drôle. C'est assez étonnant. Ouais. Ok. Donc voilà, donc on a parlé de ses parents qui utilisent l'IA, on a parlé de ses étudiantes, de ses lycéens qui ont utilisé l'IA. Pour les activités du quotidien, la cuisine. Tara, dans son appartement francilien, face à son frigo, où traîne de la nourriture en fin de vie, prit l'habitude de consulter l'IA. Je lui fais plus confiance qu'à ma coloc, s'amuse-t-elle. Faut pas gâcher, mais faudrait pas s'intoxiquer non plus, hein, pour la cuisine. Voilà. Victor, 22 ans, c'est pareil, utilise ChatGPT pour la cuisine, pour simplifier le suivi de ses repas. Voilà. Il y a un chef étoilé qui s'appelle Matan Zaken, 32 ans, qui décrit ChatGPT comme l'équivalent d'un collègue qui l'aide à structurer ses idées, à valider ses intuitions ou encore à surprendre. C'est en discutant avec l'IA que j'ai découvert le potentiel aromatique des noyaux de dattes torréfiés. Hein? Leur goût évoque le café, c'est une vraie surprise. C'est incroyable. Voilà. Dans un restaurant italien du quartier de Belleville, Alessandro s'en sert pour varier ses pastas du jour. Je lui demande, donne-moi une vingtaine de recettes italiennes traditionnelles, je pioche dedans selon les produits que j'ai, je fais ma version. Voy, voy, voy. Ouais. Pour les achats du quotidien aussi, hein, y a une étude qui montre que un tiers des consommateurs font déjà appel à l'IA pour faciliter leurs achats du quotidien. Chez les jeunes, cette proportion atteint 57%. Certains demandent à ChatGPT de dénicher des codes promo en ligne pour les produits qu'ils ciblent. D'autres demandent à l'IA de repérer le site d'e-commerce proposant le meilleur prix. Ça marche, ça ? Voilà. Ou encore de fournir un comparatif des marques. Et de plus en plus d'acheteurs se promènent en rayon équipés de leur téléphone, préférant questionner ChatGPT plutôt que les vendeurs. Ça marche, hein ? Si tu dis où est-ce que je pourrais trouver ce produit le moins cher possible ? Ça fonctionne ? Eh ben ! Salut Maurice Netki, merci pour ton message, c'est adorable. Sophie, étudiante en médecine de 25 ans, quand elle veut aller au cinéma, elle demande à ChatGPT. Je lui indique mon humeur, le genre de film dont j'ai envie, je lui dis que je veux un film où j'apprends des choses, etc. Quoi. Donc, je lui demande même des résumés de films pour pouvoir comparer. C'est marrant. J'ai pas ce réflexe, moi, encore. Pour les vacances, pour les recherches de séjour, pour les recherches de logement. Ok. Vous, pardon, je vous ai très peu lu. Hein, j'ai demandé à ChatGPT s'il croyait à ma candidature à la présidentielle, mais je vous ai pas beaucoup lu. Vous en pensez quoi ? Quasiment pas un jour sans utiliser ChatGPT, mais du poireau goulu. Vraiment un bon outil, me dit Durlas. Ça met des barrières, c'est rassurant, mais ça empêche un peu de trouver des pépites, me dit Julien. Je l'utilise pour ma santé, pour l'administratif, me dit Nathan. Moi, je me sers pour retrouver un film, me dit Almeric. Maëva nous rappelle que ChatGPT fait des erreurs parfois, bien sûr. Évidemment. D'ailleurs, ce n'est qu'une source. Hein. De toute façon, une source, elle peut se tromper. Hein. Ça bride la créativité, me dit Denres, et sa capacité à se faire ses propres idées, à les développer soi-même. Je pense que ça peut être utilisé pour compléter des choses seulement dans les études ou le travail, quoi. Cooks. ChatGPT très utile au quotidien du moment qu'on ne lui demande pas d'être ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un humain. Si on garde en tête que c'est une machine qui permet de gagner du temps en synthétisant des informations sourcées, ça fait gagner un temps monstre, notamment du travail. Il faut tout de même toujours garder en tête que sa réponse peut être imprécise ou même incorrecte, et il faut donc prendre l'habitude de lui demander ses sources et de les checker. Ah ouais, demander les sources, c'est bien, ça me parle, ça. On peut, quand on parle à un robot conversationnel comme ça et qu'il nous fait une réponse, on peut lui demander ses sources. Ça, c'est bien ça ou pas ? C'est un super outil, je l'utilise beaucoup en pro, me dit Ventrèche, mais il faut faire attention, c'est un expert en locution, mais pas en fact-checking. Il peut expliquer de manière très convaincante quelque chose de complètement faux. Oui, on peut lui demander les sources. Il les donne de lui-même, les sources sont affichées. C'est génial, ça me plaît, ça. Incroyable. Attention aux hallucinations sur les sujets précis. En tant que dev expert, me dit Alexis, j'estime à minimum 30% le gain de temps pour mes tâches récurrentes. Alors vous êtes très nombreux à parler de Claude. Simonovic, j'utilise Claude au quotidien autant pour coder que pour réfléchir, bien mieux que ChatGPT. Claude, c'est quoi? Enfin, c'est une IA conversationnelle, mais c'est qui? Enfin, c'est quel groupe? C'est bien, Claude? Moi, je connaissais Madame Claude il y a très longtemps, mais je pense que c'est pas du tout la même chose. T'as la rêve, Joe? Putain, un rêve de vieux, hein. C'est français? D'accord. Bah, Madame Claude aussi, c'était français. C'est anthropique. Waouh. Je rénove mon appartement actuellement. Il lit le DPE et il propose des améliorations à faire les moins coûteuses. Attention, alors ça, j'ai lu beaucoup d'articles sur le danger psychologique, hein, notamment. On commence à parler beaucoup de soucis sur l'impact des IA sur la santé, sur l'équilibre psychologique. Attention, me dit Wabedou, il est souvent d'accord avec l'utilisateur, le flatte parfois, c'est pas top pour l'esprit critique, on risque d'être dans une bulle, je dois souvent lui dire, sois honnête, vérifie tes sources. Très important ça. Ce thème vous inspire trop, j'ai littéralement trop de messages. Je ne vous lis pas tous, je suis désolé. Ok. Et Defecator, il a raison, souligne que l'article a complètement évacué tous les problèmes, hallucinations, coûts énergétiques fous. Alors Defecator, c'est ce que ça s'appelle un angle, alors c'est pas à toi que je vais l'apprendre. L'angle du papier, c'est comment ChatGPT est entré dans nos vies. L'angle du papier qui tient sur deux pages, c'est pas les IA, positifs, négatifs, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les IA sans jamais oser le demander. C'est un angle journalistique qui est comment ChatGPT est rentré dans la vie quotidienne des Français. Donc c'est absolument pas... on n'est pas sur un article de Wikipédia sur l'IA, sa vie, son œuvre. Ça, Defecator, c'est juste, tu l'as sous les yeux, tu le sais. C'est le principe d'un article de presse. À un moment, tu choisis un angle. Alors, sinon, tu fais 30 pages. On est bien d'accord. Faut que je m'y mette, moi. Oui, Val. Oui, bah, c'est mon super pouvoir. Il n'y a que ça que je sais faire de bien. Lire. Ouais. Bon, du coup, je suis un peu à la... Moi qui ne l'utilise pas au quotidien, vous estimez que je suis un peu en retard ou qu'on peut encore s'en passer? La question toute naïve que je vous pose, c'est ça, en fait. C'est aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir se passer dans notre quotidien de l'IA? Moi, je m'en passe à 100%. Vous êtes nombreux à dire qu'on peut s'en passer. Hein. J'ai Anna Lins qui dit il faut s'en passer même. On doit s'en passer. C'est intéressant. C'est très intéressant. Si tu as un esprit critique et tu sais vérifier tes sources, mieux vaut s'en passer, me dit Alexandra. Attends. Mais c'est bien d'être à jour pour ne pas être largué au moment où ça va devenir obligatoire. Moi, je me dis que c'est un outil et que s'il est correctement utilisé et intelligemment utilisé, c'est un outil qui peut apporter des choses positives. Voilà. En gardant son esprit critique, en se demandant comment il fonctionne, en prenant garde à la réponse. Comme finalement, comme quand on lit un article et dont je vous dis, dont on se dit au quotidien, mais ça n'est qu'un article, ça n'est qu'une vision, hein, ça n'est qu'un angle, et ça n'est pas forcément la vérité à 100%, quoi. Ouais. Peut-être qu'il faut que je m'y mette un petit peu quand même. En tout cas, vous avez vu que ChatGPT pensait que ma candidature à la présidentielle était une très bonne idée, donc je valide. On y reviendra. Bon, un petit plaisir les amis, un petit coup de pixou. Voilà, parce que parfois il y a des bonnes nouvelles dans l'actualité, je trouve ça tout mignon en vrai. On est à combien là, 2h19? Attends, le sommaire il est là. C'est quoi cette histoire de pixou français? Eh ben c'est un pixou français, comme le titre l'indique. Voilà. Il y a un album qui sort, de BD, pixou, mais français. Voilà. Et il paraît qu'il est super sympa. Ok, je vous le mets aussi, le sommaire, chez vous, amis de TikTok. C'est mignon Picsou, moi j'ai les petits à la maison qui lisent ça en ce moment là. Enfin, ils lisent Goethe dans le texte aussi, et ça, non je déconne. Picsou passe à la cryptomonnaie et ça vaut de l'or, nous dit, c'est le Parisien. Après Lucky Luke, le scénariste Jules, ne pas confondre avec Jules, s'attaque au plus riche des canards et il publie avec le dessinateur Nicolas Keramidas, Picsou et les Bitcoin-coin. Bitcoin, Bitcoin coin, Bitcoin coin, ok. Un projet particulièrement réussi, manifestement. Qui a écrit cet article? Ah, j'ai pas la signature. Ah ouais, d'accord, ok. Manifestement, le Parisien a aimé la BD. Hein, quoi? Sugar, quoi? Balthazar, le canard le plus riche du monde, ça vous dit rien, mais si, on a tous un Picsou magazine qui traîne. Ah oui, c'est Balthazar son vrai nom, c'est vrai. Un Picsou magazine qui traîne dans un coin de notre enfance, plongeant dans son tas d'or. Plongeant dans son tas d'or, il est l'un des personnages Disney les plus connus, mais pas le plus facile. Il fallait oser s'y attaquer, un défi que relève haut la main le scénariste Jules et le dessinateur Nicolas Keramidas dans leur fantastique album plein d'humour Picsou et les Bits Coin Coin en librairie mercredi. Bon, je sais pas s'il faut lancer Bitcoin Coin ou Bitcoin Coin. Un exploit mondial car c'est la première fois que Disney laisse des auteurs s'approprier Picsou. Voilà. L'un des plus décriés, mais aussi l'un des plus aimés de leur classe. C'est la première fois que Disney laisse des auteurs s'emparer de Picsou comme ça. Quoi. Alors, pisser sur la flamme, le Parisien dit que c'est une première fois. Et dans le chat, certains me disent non, il y a eu déjà des auteurs franco-belges. Tortue HS me dit il y a eu des Italiens. Ok. C'est intéressant. C'est Jacques Glénat qui a eu cette idée, précise Jules. J'avais envoyé plusieurs emails à Disney leur soumettant l'idée d'un album Picsou écrit par un Français, mais sans réponse. Voilà. Il a fallu qu'il croise un jour une huile du magazine Disney Girl pour que son projet remonte dans les hautes sphères et soit lancé. Voilà. Ah oui, on devrait demander à ChatGPT, ouais. Il a aussi fallu que Jacques Glénat convainque Jules, autre monstre sacré de la BD, de le suivre. Voilà. J'ai pas dit oui tout de suite parce que j'étais pas forcément à l'aise avec le personnage, hein, dit Jules, qui est aussi le scénariste de Lucky Luke. Je vous lis. Hein. Alors, l'idée était de plonger le richissime palmipède, donc Monsieur Picsou, dans le monde sans pitié des crypto-monnaies, des bitcoins, des oligarques et des influenceurs. C'est un peu l'idée. Donc il y a eu plusieurs mois d'échanges entre le scénariste et le dessinateur. Voilà. Bon, l'expérience a été plutôt sympa. C'est comme si Disney nous prêtait un de ses jouets en nous demandant de ne pas le casser. Voilà. L'idée, c'est qu'il y ait plusieurs degrés de lecture dans cet album. Que tout le monde s'y retrouve, les fans, les adultes, les enfants. Les deux auteurs ont apprécié que les Américains soient toujours prêts à trouver une solution ensemble. Voilà. Il en résulte, selon le Parisien, source. Une bande dessinée drôle, une lecture savoureuse comme une Madeleine de Proust. On retrouve avec plaisir la bande au complet. Picsou, Donald, Riri, Fifi, Loulou, les neveux. Géo trouve tout. Putain, il me fascinait, lui, l'inventeur, là. Hein? Ça, c'est intéressant. Vous voyez, le chat, c'est assez fascinant. Il y a vraiment des questions assez pertinentes. Et d'autres un peu étranges. Non, celle-là, je ne la lirai pas, d'ailleurs. On trouve aussi des stars du 7e art, des milliardaires pas sympathiques. On aimerait bien que les riches soient plutôt comme Picsou, cupides et colériques, mais humains plutôt que transhumanistes, avec un projet politique, souligne Jules. C'est mignon. 10 000 exemplaires. L'album est l'une des plus grosses sorties de l'année. Voilà. S'il a du succès, Jules espère sortir un Picsou tous les deux ans en alternance avec un Lucky Luke. Oui, tu l'as vu la question Sugar, ouais. Je l'ai pas lu finalement. Bon, je sais pas, moi j'avais été un peu hypé, puis alors certains dans le chat m'ont dit ouais, mais il y a déjà eu des adaptations par des auteurs européens. C'est 100 000 ah, oui. Ah, c'est 100 000. T'as raison, c'est 100 000, pardon, pas 10 000. C'est énorme 100 000, non? Je trouvais que c'était pas beaucoup 10 000, effectivement. Mais, donc vous êtes sûr qu'il y a eu des Picsou écrits par des auteurs européens avec l'autorisation de Disney? Parce que c'est, du coup, ça m'a baissé un peu ma hype. Oui, ok, d'accord. D'accord. Bon, alors là, ça veut dire que l'article fait une erreur, alors. Parce que l'article écrit, comme quoi, hein, un exploit mondial, car c'est la première fois que Disney laisse ses auteurs s'approprier son volatile. Donc cette info est fausse. D'accord. Ben, vous voyez, merci d'avoir corrigé. On parle de Don Rosa notamment. Il y a une version italienne et Don Rosa a ensuite pris la main. Ben après, il y a Interfactor qui dit ouais, mais Don Rosa, il est américain, les gars. Ok. Mon père est français et un vrai Picsou, 10 euros d'argent de poche par mois, me dit Life is Comedy. Ok. Je sais pas, moi, j'étais un peu hypé parce que comme les enfants, ils aiment bien. Ok, Don Rosa est américain. Par contre, Cavazzano a déjà travaillé sur Picsou. Ok. Voilà, super. Bon, les amis, merci pour ce matin, mais j'aimerais terminer par un dernier sujet, voilà, où il n'y a pas d'article et pour cause. Bah, c'est bien le problème, c'est qu'il n'y a pas d'article d'ailleurs. Attendez. Donc, du coup, hop, on va passer au GP Explorer. Dernier sujet. Ah, quelle heure? 2h26. Voilà. Et moi, c'est la question que je me pose ce matin, c'est pourquoi il n'y a pas d'article dans les médias traditionnels à la hauteur de l'événement que ça a été sur Internet. Voilà, ça c'est un vrai sujet, une vraie question. Salut Manjo, on se retrouve à 17h ?
Quand tu veux, on va à la salle.
Je pense que je vais... Tu vas faire du sport ?
Non, on va à la salle. Oui,
elle est très bonne.
Elle
est très bonne.
Merci Madame
Cohn. À tout à l'heure. Attendez, ça je vous enlève ça. Ouais, c'est ça. Événement incroyable, enfin, le monde d'internet en France n'a parlé que de ça ce week-end, et pourtant, pas d'article. Alors évidemment, sur internet, si vous tapez ChatGPT, vous allez trouver sur lemonde.fr, sur leparisien.fr, vous allez trouver les articles. Mais aucun de ces journaux, ceux que je lis le matin, parce que je ne parle que de ceux que je connais, hein, n'ont daigné consacrer dans leurs éditions du lundi, comme du mardi, des articles sur ce GP Explorer. Et ça, j'ai trouvé ça quand même très surprenant. Voilà. Alors que l'audience a été incroyable, qu'un nouveau record a été battu, que... Voilà. Et... voilà. Et ça, j'ai du mal à me l'expliquer, en fait. Parce que vous avez des médias traditionnels qui se plaignent de ne plus être consommés par les jeunes, hein. La télévision de ne pas être regardée par les jeunes, la radio de ne pas être écoutée par des jeunes, les quotidiens de ne pas être lus par les jeunes. Et à un moment, vous avez un événement internet de divertissement culturel, la culture au sens large, culture pop, qui se déroule le week-end, voilà, dont tout internet parle et dont les médias traditionnels ne parlent pas, quoi. Alors le West France, bien sûr, on a parlé de West France, mais je vous parle des médias que moi je consomme, les quotidiens le matin. Mais c'est intéressant parce que comme je lis toujours les mêmes médias, les mêmes journaux nationaux, West France un quotidien régional, c'est intéressant de voir comment ces quotidiens nationaux qui peuvent se plaindre de ne pas être lus par les jeunes, à un moment disent que ben non, on va pas écrire là-dessus, quoi. Voilà. Ça c'est un peu une surprise. Alors évidemment, si on cherche, regardez, on va faire l'expérience. Hein. Si on cherche, on va en trouver des articles, mais en ligne. Et en ligne. Ça, je ne me l'explique pas. Ouais. Adonis écrit, je pense que les médias ont peur pour leurs fesses aussi. Après, on peut s'interroger des dangers de suivre des influenceurs plutôt que de lire des journaux à la télévision pour s'informer. Oui, mais enfin, là, on est sur du divertissement, tu vois. Les publics sont pas les mêmes. Oui, mais du coup, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en fait, si ces médias traditionnels ne parlent pas des événements qui intéressent un public plus jeune, ils ne risquent pas non plus d'être consommés par ce public plus jeune. Question pour un champion, t'as mis au RSA ou quoi ? Merci, modérateur, pour ton message de merde. J'avoue que c'est dommage, écrit Ben Golden. En plus, ça renforce le clivage entre les tranches d'âge. Ben oui. Un 1.3 sur Twitch dimanche. 1.5, non ? 1,5 million viewers en pic, non ? Est-ce que ce serait pas lié à la composition des comités de rédaction ? Oui. Moi, j'ai un journaliste plutôt jeune d'un grand quotidien national qui me dit que régulièrement, il propose des articles sur la sphère Internet à sa rédaction, mais qu'en fait, ce n'est pas validé. Parce que les rédacteurs en chef, qui sont d'une autre génération, ne valident pas forcément la proposition de sujet, quoi. Donc, il y a des débats au sein même des rédactions. Mais on va dire que les rédacteurs et les rédactrices les plus jeunes... au regard de leur jeunesse et de leur expérience, justement, ne sont souvent pas les rédacteurs en chef et ne sont pas ceux qui décident au final. Ils n'ont pas le final cut, quoi. Grand Dame rappelle l'angle retenu par la plupart des médias traditionnels pour parler de la marche de Bailan et Nico, l'aspect sécuritaire. La plupart des articles sur la marche de Bailan et Nico, c'est sur les soucis de sécurité qu'il y a eu au début de la marche. Voilà. Alors, les soucis de sécurité au début de la marche de Bailan et Nico sont un des événements intéressants de cette marche, mais ne sont qu'un seul de ces événements. Il y avait plein d'autres choses à dire. Et donc, je ne dis pas qu'ils n'avaient pas à parler de cet aspect sécuritaire, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient parlé que de cela, pour la plupart. Donc oui, ça pose des questions. C'est triste parce que le GP3 était le meilleur exemple pour présenter ce monde-là à un autre public via la presse. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et puis on ne demande pas... un journal, c'est 30, 40, 50 pages. Dans les journaux lundi et mardi, vous avez vu, il y a eu des sujets très, très, très durs. Enfin, je veux dire, sur des sujets importants comme la crise politique en France, comme le Proche-Orient, comme l'Ukraine, il y a des sujets très lourds comme ça. Et puis, dans un quotidien où, tous les jours, c'est aussi le plaisir aussi du journal, vous avez des sujets plus légers sur les sorties ciné, sur une sortie de BD, sur une initiative de vie locale. Donc, un quart de page ou un cinquième de page sur le GP Explorer le lundi ou le mardi... pour dire, bah voilà, sur Internet, vous ne le consommez peut-être pas, Twitch, YouTube, mais il s'y passe des choses intéressantes, ça ne me semble pas totalement déconnant. Hein ? Mais bon, j'ai pas la réponse à la question que je me pose. Et je pense que c'est un acte manqué. Les médias traditionnels, ils ne vont pouvoir survivre qu'en étant aussi consommés par un public un peu moins âgé qu'il n'est aujourd'hui. Voilà. Et pour ce faire, il faut aussi qu'ils s'intéressent aux habitudes de consommation, culturelles notamment, ou d'information, de divertissement du public plus jeune. Sinon, ils vont jamais raccrocher les wagons, quoi. Apex me dit alors qu'en Belgique on en parle. Dans les quotidiens nationaux belges, vous aviez des articles, vraiment ? Ouais, 200 000 personnes sur place, pas un article. Oui, rien que ça, oui. En plus, il y avait un autre angle qui était intéressant, c'est comment en fait ce GP Explorer, il attire sur une course automobile un public qui souvent n'avait aucune affinité avec le sport mécanique. Quoi. 200 000 personnes sur place, ça vaut un petit article quand même. Ouais, je sais pas. Ok. Mais c'est une vraie surprise pour moi. Moi, j'étais persuadé que lundi, il y aurait des articles dans la presse quotidienne nationale. Quoi. Et j'ai été très surpris de ne pas en trouver. Alors même que France Télévisions avait acheté les droits, notamment France 2, mais pas seulement, parce qu'ils avaient été diffusés en partie sur France 4 et France.tv, que France Télévisions avait payé sans doute assez cher les droits. Et donc, je me dis, bah, tiens, ça montre quand même qu'il y a des gens qui s'y intéressent. Bah, non, finalement. Ok. Ouais, la patrouille de France, c'était un peu fou, ouais. Ah, ou alors, Neo Passenger, manque de communication de la part des organisateurs aux communications mal faites. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être que le monde des créateurs de contenu, peut-être que les organisateurs du GP Explorer, ne tenait pas plus que ça finalement à communiquer auprès des médias traditionnels sur cet événement, sachant que les gens qui allaient consommer le GP Explorer n'étaient pas forcément des consommateurs de ces médias traditionnels. Ok. Mais enfin, il y avait une télévision nationale sur place, c'était quand même très ouvert, très couvert, tu veux dire. Alors, ça n'a rien à voir, ça c'est France Télévisions. France Télévisions, ils ont fait un énorme chèque, dont on connaît toujours pas le montant d'ailleurs, pour acheter les droits. Tu m'étonnes que France Télévisions, ils étaient à 200, ils étaient à 200 à l'heure. Parce qu'il y avait un investissement. Pardon, ils sont pas là pour vous faire plaisir, ils sont là parce qu'ils ont acheté le truc. Et donc après, il faut l'exposer au maximum pour entrer un petit peu dans ses sous. C'est pas une histoire de traitement médiatique, ça. C'est une histoire de. Voilà. Ah bah tiens, Bob Dylan, j'avais pas vu tes messages, excuse-moi, je t'avais raté. Voilà, maintenant je les ai vus. Merci beaucoup. Je m'excuse. Hein. Bon les amis, petite revue de presse ce matin. Hein. 2h36. Non, en général, c'est plus long, mais pour la bonne cause, puisque. Hop. Bon, ça, c'est mercredi. Voilà, mercredi 12h, Alexandre Astier. Dans MVP, il faut que je prépare l'interview. Voilà. Mais avant ça, il y a ça ce soir. Voilà. Voilà. Le bingo, mesdames et messieurs. Voilà. Et ça, c'est combien on disait des années de travail? Non, des décennies, je ne sais plus. Voilà. Bon, enfin, ça a été du boulot. Avec Joe, là, qui est parti d'ailleurs. Comment ça, Alexandre Astier? Ah oui, je vais vous le remettre. Donc ce soir, 20h, sur Twitch, uniquement sur Twitch, voilà. Mon plus gros projet de la rentrée, c'est mon GP Explorer à moi, avec moins de voitures. À la place, il y a des candidats adorables, il y a Jiraya, il y a Lydia, il y a DFG, voilà. C'est un bingo, il y aura des boules. Vous le voyez là, juste devant, au premier plan, il y aura un boulier. On tirera des boules, voilà. On lira les boules et derrière chaque boule, il y aura un mini-jeu, il y aura un quiz, il y aura des questions, on va rigoler. On gagne quoi? On gagne plein de trucs. Voilà. Il y a un public sur place qui va jouer avec nous. Voilà. Et c'est ce soir à 20h, on va bien rigoler. Voilà. C'est en replay si vous le manquez sur Twitch, sur YouTube. Le bingo. Et je vous le disais effectivement, on a aussi mercredi le retour de MVP. Voilà. Avec à 10h, eh bien, votre MVP comme deux fois par mois. Avec notamment les créateurs de contenu Ludovic B, Marie Palot et Ben Nevers. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Hein, donc là, c'est deux fois par mois. C'est une émission qui explore toutes les questions autour du travail, du taf, des jobs, mais de la façon la plus chill possible. On discute tranquillement. On a trois chroniqueurs. On a trois invités. Et à midi, on a l'invité MVP. qui est l'invité principal, sachant qu'on en a eu 3 ou 4 avant, voilà, et mercredi, je me concentre un petit peu, eh bien ce sera Alexandre Astier, le papa de Kaamelott. Voilà, donc ça c'est rendez-vous, si vous êtes fan un petit peu de l'univers de Kaamelott, pour une interview, non pas de 5 ou de 10 minutes, mais d'une heure d'Alexandre Astier. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir mercredi sur Twitch, parce que là, ces émissions, ce sera que sur Twitch. La revue de presse, pour l'instant, elle est sur TikTok et Twitch, mais les gros streams comme ça, je ne les propose que sur Twitch. Ok, les beaux gosses ? Donc, pas de revue de presse demain ou j'ai rien compris ? Non, Julien, t'as tout compris. Si, il y aura une mini-revue de presse à 9h. Il y aura une mini-revue de presse de 9h à 10h qui sera plutôt un gros sommaire. Et du coup, je reproposerai dans l'après-midi ou dans la soirée demain une autre revue de presse. Enfin, une revue de presse plus complète qui sera le développement de la mini-revue de presse du matin. Voilà, parce que la revue de presse, c'est un engagement ici. Donc demain, littéralement, vous avez deux streams. Vous avez le MVP 9h midi, 9h mini-revue de presse, 10h et le MVP midi Alexandre Astier. Et puis dans l'après-midi ou dans la soirée, une revue de presse plus complète de 2-3 heures. Voilà. Puisque je pense que notamment sur le plan politique, il sera passé plein de trucs. Ok les beaux gosses ? Ok ? Merci beaucoup. Amis de TikTok, je vous dis au revoir. Je vous dis ce soir sur Twitch, rejoignez-nous pour l'émission Le Mingo à 20h. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez aussi. Voilà. Et puis à demain matin au plus tard sur... demain matin, vous ne serez pas sur TikTok. Ce sera la revue de presse quand je l'ai fait depuis le studio d'MVP, il n'est que sur Twitch. Donc au plus tard demain sur TikTok pour la revue de presse de l'après-midi ou du soir, si vous suivez bien. Et si vous voulez nous rejoindre sur Twitch d'ici là, n'hésitez pas, ça nous fera un grand plaisir. Ciao. Amis de Twitch, qu'est-ce qu'on fait nous ? Un raid, bien sûr. Voilà. Eh, je vous compte sur vous pour ce soir. Je compte sur vous pour ce soir. On a vraiment taffé. Des années on a travaillé. Des années on a travaillé sur ce live-là. Des années. Ça tourne à combien de vues sur TikTok ? Il y a du monde sur TikTok. Vous allez être bluffés. Au début, il y avait 100 personnes, il y avait 200 personnes. Maintenant, il y a facilement 700, 800 personnes sur TikTok, alors qu'on a commencé il n'y a pas longtemps. Hier matin, quand on a parlé de la crise politique, il y avait jusqu'à 4000 personnes. Vous vous rendez compte ? C'est fou, quoi. C'est intéressant d'exposer aussi l'actualité sur aussi une autre plateforme, quoi. Parce que je pense que ça touche un autre public aussi. Voilà. On s'est monté à 9K ici. Mais ce n'est pas une compète, mon sugar. Je vous rappelle que je stream depuis 5 ans sur Twitch. Et sur TikTok, cette revue de presse est là depuis 2 semaines. Donc je trouve ça intéressant d'exposer aussi cette réflexion sur l'actualité à un public un peu différent. Quoi. Quitte en live qu'on fasse un raid.
Ok.
Ouais. Ah, tiens.
Les Afghans.
J'achète ça. Pas mal ça. Attends, il est où le... Mais pourquoi je l'ai pas le Ken ? Pourquoi je le vois pas en live ? Tu vois ? Ah bah si, je l'ai. Il est incroyable. Les amis, il y a l'ami Ken Bogard, effectivement, qui est en train de faire un Paris-Nice à vélo. Paris-Nice à vélo. Voilà, étape 7, arrivé à Nice. Donc il est en train d'arriver ? Il est en train d'arriver ? Je sais pas, il est incroyable. On avait déjà suivi une de ses aventures comme ça sportive, c'est juste incroyable. C'est parti, on va voir Ken Bogard sur son vélo. Ne le faites pas tomber, hein. Ne le faites pas tomber. Merci les amis. Hop, je vous enlève tout ça là. Tac, tac. Je vous retrouve ce soir 20h. On va bien rigoler. Là, je vais aller faire des petites courses. Je vais faire une petite sieste pour être vraiment super en forme. Voilà, et on va voir l'ami Ken Bogard. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Rendez les autres heureux autour de vous. À ce soir 20h. Il y en a que je verrai sur place d'ailleurs. Ciao, ciao. Bye. Et dites bonjour à Ken de ma part. Il est trop sympa. Ça part dans 5, 4. Oh bah c'est parti là. Let's go.
J'en ai aucune idée.